Ce message s'intitule « La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre ».
He does the earth that he's going to use in a plan of redemption the same way. It repented and was baptized in water in it by Noah. Jesus came and sanctified it by dipping his blood upon it and cleaned it. And in the new earth that's to come, it's to have a holy fire baptism to clean it of every devil, every germ, every sickness, everything that there is, and make it anew. I saw a new heaven and a new earth. You become a new person.
Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais, puis vous entendrez la traduction française de ce message.
God takes the old man and burns him completely out with the Holy Ghost and fire, and it comes himself, sends down your representation. No man can come to me except my Father has drawn him. And all the Father has given me will come to me. You see it? Same plan, same way. Satan will be taken from the earth. Just exactly like Satan was taken from you. Satan cannot bother, or he can tempt, but he cannot get a born-again Christian. For God, from the foundation of the world, foresaw him and sent Jesus to redeem him, and the blood speaks for him. How can he send one? It can't be seen even by God. He don't even, the only thing he hears is your voice. He sees your representation. Amen. That is true. See, by the same means, or the world is one of his attributes.
Restons un instant debout alors que nous inclinons nos cœurs devant Dieu. Notre Père Céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants de ce privilège d'être aujourd'hui assemblés tous ensemble dans le nom du Seigneur Jésus. Nous te prions de pardonner nos péchés. Alors que nous sommes ici pour diriger notre attention vers les choses éternelles et vers la vie qui se trouve au-delà de cette étendue mortelle. Maintenant, nous te prions de nous faire connaître ta direction, afin de savoir comment nous conduire, ce que nous devons faire à l'avenir et même dans le temps présent, à cet instant, pour gagner cette demeure qui nous a été promise. Il y en a beaucoup qui sont malades et dans le besoin sur cette terre, et qui n'ont pas terminé leur voyage. Et notre grand ennemi, non seulement notre ennemi, mais ton ennemi, est venu les attaquer dans le but de mettre fin à leur vie et de les envoyer prématurément au tombeau. Aujourd'hui, nous intercédons pour eux, afin que toi-même, Seigneur, par ta grâce et ta miséricorde, tu prolonges leurs jours jusqu'au temps fixé.
Amen.
Sur cette estrade et sur cette chaire se trouvent des mouchoirs et des colis. Et dans les vestibules et tout autour du bâtiment, des personnes malades et affligées sont allongées sur des brancards et sur des civières. D'autres sont là dans l'auditoire avec à peine assez de force pour se tenir debout. Ô Dieu éternel, bienheureux, puisses-tu écouter ce matin notre prière au travers du sang du Seigneur Jésus, ne regardons pas notre iniquité, mais à Jésus qui un jour a pris notre place et intercède maintenant pour nous. Puisse chacun de ces malades être guéri pour ta gloire, Seigneur. Bénis ces mouchoirs, que les malades sur lesquels ils seront appliqués puissent recouvrer la santé. Et maintenant, Père, en attendant le grand service de guérison qui suivra, ouvre-nous le chemin de la vie, afin que nous puissions connaître au travers de ta parole ce que nous devons faire, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen.
J'ai toujours estimé que l'un de mes plus grands privilèges, c'est d'être dans la maison de Dieu et de parler à son peuple. Je sais que cette salle est bondée et j'aurai une très longue leçon. Toutefois, j'espère que vous serez aussi à l'aise que possible jusqu'à la fin du message. Il fait très chaud, mais nous sommes reconnaissants pour l'air conditionné. Malheureusement, pour une assemblée de cette importance, un conditionneur d'air n'est pas suffisant, car votre corps est une unité génératrice d'environ 37 degrés. Il produit constamment de la chaleur, surtout lorsque vous êtes assis les uns près des autres. Mais je pense que Dieu permettra que vous soyez à l'aise autant que possible. Quand nous avons des rencontres comme celle-ci, en aucune manière je vous ferai venir ici si je ne pensais pas que cela vous aiderait et que cela puisse vous être bénéfique et profitable. Je sais aussi qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire ceci, car nous arrivons aux toutes dernières heures de la fin. Je veux utiliser chaque moment dont je dispose pour son royaume. Je suis certain que le Seigneur Dieu nous bénira alors que nous sommes assemblés. Je veux que vous sachiez qu'hier, je suis allé dans différents endroits, visitant quelques malades et affligés dans les motels. J'ai rencontré cette semaine quelques-uns des restaurateurs. C'est ainsi que je suis allé au Ranch House. Et à notre départ, le directeur m'a serré la main en m'appelant Frère Branham. Je me suis demandé comment il pouvait me connaître. Je lui dis, « Êtes-vous le directeur de ce restaurant ?»« Je suis le propriétaire, » répondit-il. « Les gens de chez vous viennent se restaurer ici. » J'ajoutais, « Je suppose qu'ils vous encombrent un peu. »« Oh, monsieur, » me dit-il, « c'est l'un des groupes les plus charmants que j'ai jamais vus. Ils sont vraiment très bien. » Hier, je suis allé visiter dans un motel une jeune femme à qui je désirais parler. Son père et sa mère étaient présents dans l'entretien. Premièrement, j'ai dû prendre contact avec le directeur pour demander dans quelle chambre ils étaient. Il me dit, « Vous êtes bien le frère Branham ?» C'était chez les Hawks. « Oui, » lui répondis-je. Il me répondit, « Je désire vous serrer la main. » Puis il me présenta sa femme. C'est un couple charmant. Ils me dirent, « Chaque client de ce motel assiste à vos réunions. Nous avons tout réservé pour eux et refusé tous nos autres clients. » Eh bien, lui dis-je, je vous en remercie. Frère Branham, me répondit-il, je n'ai jamais vu venir ici des gens aussi sympathiques que ceux qui assistent à vos réunions. Hier soir, je suis allé voir là-bas un de mes amis, Monsieur Becker. J'ai toujours aimé ses sandwichs. Je l'ai connu quand j'étais gosse. Je le connais depuis toujours. Il y avait là un couple qui venait de l'hôtel Riverside, qui se trouve plus bas. Monsieur Becker me dit, Billy, qui est-il au maire? Nous nous connaissons vraiment bien. Il me dit, je nourris ici tous tes gens. Chaque dimanche, il y a environ 200 personnes qui mangent au Blue Boar. Et partout où je vais, j'entends des compliments à votre sujet. Ce monsieur dit, là-bas, au Riverview, toute la place est prise par ceux qui assistent aux réunions. Il y en a des centaines qui ne peuvent entrer. Pour moi, vous êtes le sel de la terre. Je suis si reconnaissant de savoir que j'ai le privilège de prêcher à vous tous et que même des pêcheurs, je ne dis pas que ces gens sont des pêcheurs, mais des personnes qui sont dans les affaires ou autres, disent que vous êtes des gens charmants et qu'ils vous apprécient dans leurs affaires. Vous savez, c'est être salé. Ainsi, j'apprécie votre comportement. J'ai toujours dit, si quelqu'un entre et qu'il n'a pas d'argent pour payer sa note, téléphonez-moi, voyez-vous. Nous nous chargerons de cela. Donnez-leur toujours à manger, qu'ils aient de quoi payer ou non. Voyez-vous, toute chose peut être faite. Je vous considère comme mes enfants. Vous êtes les étoiles qui... Vous serez ce joyau à la couronne de mon ministère, si jamais j'en ai une, lorsque je parviendrai là-bas. Amen. Quand celui-ci sera couronné, vous serez ce joyau. Dans le passé, je vous ai parlé des sept sceaux, des sept âges de l'Église et des choses qui se sont produites. Ce matin, le sujet de ma prédication est un sujet très, très important. Pour moi, c'est un sujet très béni, et j'espère qu'il le sera pour vous également. Si je pouvais seulement vous le donner de l'inspiration que je l'ai reçue, ce serait merveilleux. Mais il appartient à Dieu de le faire. Je vous avais dit ce qui se passerait et où cela aurait lieu, et nous voyons maintenant toutes ces choses se produire. Ce matin, je vais parler de la demeure future, de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, de l'endroit où ils vont vivre. Je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes tous une partie de cette grande économie de Dieu. J'espère que vous me supporterez. Prenez vos Bibles, vos crayons et ce dont vous avez besoin et lisez avec moi, car je vais me référer à de nombreux passages de l'Écriture. J'essaierai de terminer à temps pour prier pour les malades. J'ai promis cela. Nous avons prié il y a quelques instants dans les pièces à côté et dans différents endroits pour ceux qui sont presque sans aide et sans espoir. Dieu voulant, le 16, j'aurai probablement un autre service consacré à la prière pour les malades. Je commence mes vacances maintenant. Depuis janvier dernier, j'ai voyagé et me voici de retour. Demain matin, j'emmènerai ma famille à Tucson et ensuite je retournerai là-bas dans le Kentucky pour y passer quelque temps avec quelques amis et pour chasser l'écureuil. Je pense y rester 2 semaines environ, ou peut-être seulement 7 ou 8 jours, à moins que le Seigneur me conduise dans un autre endroit. Nous ne savons jamais au juste où nous allons aller, car c'est entre les mains de Dieu et de Dieu seul.
Amen.
En ce qui concerne ce grand sujet, je pense que si je prenais tout mon temps, parce qu'il y a de nombreuses choses à apporter, cela me prendrait des semaines. Mais j'ai préparé quelques notes et certains passages de l'Écriture pour toucher les points les plus importants qui vous permettront de l'étudier. Dieu voulant, je me propose en octobre prochain, ou à quelque autre moment qu'il choisira, de réserver quelques jours de réunion suivie pour vous parler du 12e chapitre de l'Apocalypse et le lier au sujet de ce jour. Oh, je crois que ce serait merveilleux de voir comment Dieu a procédé. Chaque matin, je pense, lorsque je viens ici, je vais reconnaître chacun de mes amis qui s'y trouve. Maintenant, comment vais-je m'y prendre? Aujourd'hui, il y a parmi nous mon cher ami le docteur Lee Vale, qui est assis là au fond. Il y a également sa charmante épouse et sa fille. Voici frère Roy Borders et frère Raddle, frère Billaire, frère Palmer, et frère Jackson. Oh là là, voici ces chers frères qui viennent de différentes régions. Frère Anthony Milano, oh, où que vous regardiez, vous voyez quelqu'un. Voilà ce frère qui vient de l'Arkansas. Je ne me rappelle plus son nom. Voici frère John, frère Earl Martin, frère Blair. Voyez-vous, la liste est sans fin. Je suis si heureux d'avoir un groupe comme celui-ci qui m'entoure quand j'enseigne la parole de Dieu.
Amen.
Ce sont de vaillants hommes, de véritables hommes de Dieu. Je suis reconnaissant pour ce petit tabernacle. Je suis reconnaissant pour ces 5 portes ouvertes au public. Nous avons ici 4 diacres, des hommes remplis de l'Esprit. 4 administrateurs, des hommes remplis de l'Esprit. Cela en fait 2 à chaque porte. Devant, il y a une porte à 2 battants pour les 2 pasteurs, les bergers. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Nous en remercions Dieu, qu'il puisse toujours vous bénir. Maintenant, nous désirons nous lever un moment pendant la lecture du 3e chapitre de la 2e épître de Pierre et du chapitre 21 de l'Apocalypse. Ô Seigneur, alors que nous sommes debout, remplis nos cœurs d'allégresse à cause de la lecture de ta parole. Nous savons que Jésus a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. » Nous savons également qu'il a dit, « Toutes les Écritures doivent s'accomplir. » Alors que nous lisons ces choses-là, puisses-tu nous faire réaliser l'heure dans laquelle nous vivons. Nous te le demandons au nom de Jésus, l'auteur de ce livre. Amen. 2 Pierre 3. Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre. Et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses en votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Si cela ne se rapporte pas à cette femme infidèle? Car, depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, que la parole de Dieu, que par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Amen. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient vers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux et la terre passeront avec un bruit sifflant, et les éléments brasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Toutes ces choses devront donc se dissoudre. Quel genre devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui, en paix. Estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit. Selon la sagesse qui lui était donnée, ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre. Que les ignorants et les malaffermis tordent, comme aussi les autres Écritures, à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Amen. Maintenant dans la révélation de Christ, au chapitre 21, je lis ces mots. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel, disant, voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, Elles seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Elle me dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Elle me dit, « C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu pour lui, et lui me sera fils. » Prions de nouveau. Seigneur Jésus, devant une telle promesse et de tels propos que Jésus lui-même et les apôtres nous ont donnés concernant l'heure que nous approchons, fais-nous connaître ta direction afin que nous puissions savoir comment l'approcher de la bonne manière. Car cette heure est bientôt là, nous le savons, les Écritures doivent s'accomplir. Il en sera ainsi. Et maintenant, Seigneur, nous demandons à nouveau que ta miséricorde repose sur nous tous pendant que nous allons étudier ta parole. Sois avec nous et révèle-la à nous, Seigneur, car nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je me demande s'il ne serait pas possible de couper les lumières au-dessus de la salle principale et d'éclairer seulement l'estrade ici. Cela serait préférable au cas où le courant... L'autre soir, nous avons presque grillé un transformateur. Ainsi, nous serions reconnaissants au concierge s'il pouvait s'en occuper. Veuillez bien éteindre, s'il vous plaît, les lumières sur la salle principale. Je pense que malgré cela, il vous sera possible de voir et d'écrire. Maintenant, je désire annoncer à nouveau le titre de la prédication de ce jour. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Comme il fait très chaud dans cette salle, je vais devoir enlever ma veste. Je sais que ma femme n'aime pas me voir agir ainsi, mais il fait vraiment trop chaud, je me trouve. Là-bas, vous avez de l'air, mais il ne parvient pas jusqu'ici. Dans le passé, nous avons étudié les sept sceaux. Les sept âges de l'Église. Frère Veil et ses assistants sont en train de travailler assidûment sur ces messages afin de les présenter sous forme de livres. Alors que nous voyons toutes ces choses mystérieuses se réaliser, quelle heure nous... Comment est-il possible à un homme sincère de nier la semence une? Consulte les Écritures. La Bible est la confirmatrice. Cela vient de nouveau. Alors, je commence à examiner le passage de l'Écriture. Vous savez que notre Bible est écrite en anglais. Dans cette langue, la valeur des mots change tout le temps. Par exemple, Jean 14 dit, dans la Bible anglaise, « Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de châteaux. » Un château dans une maison. Pour comprendre ce que la Bible anglaise veut dire, il faut consulter les textes originaux hébreux ou grecs. C'est d'eux qu'est sortie la première traduction. Alors, dans le texte original, il est dit, « Dans le royaume de mon père, il y a beaucoup de palais. » Alors, vous revenez à l'époque où cette traduction fut effectuée pour le roi Jacques, et là, nous voyons que le royaume était appelé en anglais une maison, et le roi était alors un père pour ses sujets. C'est la raison pour laquelle ils traduisirent « Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de châteaux. » Vous voyez? Lorsqu'il y a des mots comme cela, vous devez faire des recherches. Alors vous voyez, ce matin, de cette chair, je puis dire que pas une seule fois, cela n'était autre chose que l'Écriture. C'est ainsi que j'ai reçu la semence du serpent et toutes ces autres choses. Voyez-vous, si quelqu'un voulait simplement lire comme ceci, « Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures », et qu'il ne s'arrête pas pour étudier, prier, il serait tout embrouillé. Voyez-vous, mais continuez simplement à prier. Dieu le justifiera toujours si cela vient de lui. Maintenant, Jean explique le changement et la venue de... Comment cela arrive? Il ne l'explique pas, mais Pierre le fait. Jean dit simplement, « Je vis de nouveaux cieux et nouvelle terre, car le premier ciel La première terre s'en était allée, et la mer n'est plus. Moi, Jean, je vis la sainte cité descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Maintenant, voyons ce que Pierre 2 nous dit pour expliquer le processus de ces transformations. Si vous regardez ce que Jean a dit, car le premier ciel, la première terre s'en était allée, anéantie, voyez-vous, cela paraît vraiment étrange. Et cela me frappa à tel point que je me mis à rechercher la signification exacte du mot « s'en aller ». Il est clair que ces apôtres et prophètes parlaient de la même chose. Également, dans le livre d'Ésaïe, si vous désirez inscrire ces références, c'est Ésaïe 65, 17. Ésaïe parle du millénium, de ces 1000 ans de repos pour le peuple de Dieu. Il dit que toutes les choses passées avaient disparu et qu'il bâtissait des maisons et les habitait. Si nous avions le temps, eh bien, nous allons peut-être prendre ce temps et lire de Ésaïe 65. Lisons ceci une minute, c'est tout à fait pour nous. Ésaïe 65, 17. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le prophète Ésaïe est un des prophètes qui écrivit avec exactitude la Bible entière dans sa prophétie. Il commence avec la création. Au milieu de son livre, vers le 40e chapitre, il y a Jean-Baptiste et le Nouveau Testament. Elle termine son livre avec l'Apocalypse et le millénium. Il y a 66 livres dans la Bible et 66 chapitres dans Ésaïe. Celui-ci en fait une description complète. Nous voyons ici ce que dit le chapitre 65. Un chapitre plus loin, il parle du millénium. Remarquez comme c'est beau. Car je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. On ne se rappellera plus des choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Cela doit disparaître. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Votre ferme, ce n'est pas votre fils ou l'un de vos héritiers qui l'héritera. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Ils planteront pour eux-mêmes et ils resteront là. Ils ont la vie éternelle. Amen. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de mes mains, l'œuvre de leurs mains. Et ils ne travailleront pas en vain, et n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Amen. Voici maintenant un passage sur lequel je reviendrai plus tard. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Quelle merveilleuse promesse venant de ces prophètes et de ces grands sages, de ces enseignants de la Bible qui ont vécu il y a fort longtemps et ont pu voir venir ce jour glorieux. À la lecture de ces passages, on pourrait être conduit à penser ou à croire que la planète entière, que toute cette terre sera détruite. Je vais créer de nouveaux cieux et nouvelles terres, voyez-vous, que les cieux et la terre vont disparaître complètement, qu'ils seront anéantis. Mais après une profonde étude et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons connaître la vérité à ce sujet, et c'est ce que nous allons étudier. Il n'y aura que les atmosphères qui entourent la terre, et le péché qui s'y trouve, qui seront détruits. Voyez-vous, maintenant nous réalisons que les cieux représentent les atmosphères qui sont au-dessus de nous. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ces chardons, les maladies, la mort, la politique, tout homme pécheur et toute femme pécheresse, tous ces mauvais esprits, toutes ces choses-là seront détruites à jamais et totalement anéanties.
Amen.
Il doit en être ainsi parce que nous allons vivre ici même. Nous prouverons tout cela par la Bible. C'est ici même que nous vivrons. Remarquez que tous les chardons, tous les germes et toutes les maladies disparaîtront complètement. Tout ce qui existe sur la terre en ce moment, les systèmes de création humaine, toute la politique, le péché, toutes les sortes de mauvais esprits qui contaminent le monde actuel et les cieux qui sont au-dessus de nous. Nous allons examiner tout cela en profondeur et longuement. Les cieux ou atmosphères de ce jour, ainsi que la terre actuelle, contiennent ces choses. Mais ils n'avaient pas été créés pour cet usage. C'est le péché qui causa tout cela. Tout cela a été créé par Dieu, le Créateur. Tous les éléments qui ont formé le corps dans lequel nous vivons maintenant furent placés sur la terre quand Dieu la créa, parce que nous sommes tous sortis de la poussière de la terre. Tout cela y fut placé lorsque Dieu lui-même créa la terre. Vous étiez dans sa pensée, en lui, le grand éternel, en tant que ses attributs.
Amen.
Le péché fut la cause de tout ce qui est arrivé, et Dieu, à travers cet âge, rassemble ses matériaux. Satan est toujours ici. Voilà pourquoi toutes ces choses se produisent. Il est toujours ici, et toute sa puissance satanique est encore là. Voilà pourquoi la terre actuelle est si immonde. Voilà pourquoi nous constatons la présence de cette crasse et de toutes ces choses ridicules qui se passent, telles qu'effusion de sang, guerre, politique, péché, adultère et toutes sortes de corruptions. Tout cela continue parce que Satan est le maître de cette terre et de son atmosphère. Mais me direz-vous, l'atmosphère? Oui, monsieur, les cieux et la terre sont actuellement contaminés par des démons qui peuvent nous accuser devant Dieu. Jésus est là-haut qui intercède pour nous, voyez-vous? Alors que les accusateurs pointent un doigt vers nous en disant, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, encore cela, mais le sang couvre toujours.
Amen.
Jésus est venu pour racheter l'élu qu'il a connu d'avance.
Amen.
Voilà pourquoi le monde est si contaminé aujourd'hui. Ici l'apôtre, dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 5 et 6, parle de ces trois phases de la terre. Notez comment il présente cela. Le vieux monde a surgi des eaux. C'était alors le monde antédiluvien de Genèse 1:1. Il parle ensuite de la terre du monde actuel dans lequel nous vivons. Il se réfère ensuite à un monde à venir, le monde nouveau. Il y a donc trois mondes différents, ou plutôt trois phases du monde. Notez comment Dieu nous a révélé parfaitement son plan de rédemption. Oh, cela a fait tressaillir mon âme quand je l'ai vu. Combien nous montre parfaitement son plan de rédemption. Maintenant, comparez ce que nous voyons de nos propres yeux et ce que Dieu a fait pour racheter son monde. Il a utilisé le même plan pour racheter son peuple. Car le Dieu immuable ne change jamais sa façon de faire, ou quoi que ce soit. Quelle chose glorieuse! Voyez comment il nous a conduits à lui, afin de faire sa demeure en nous. Il a utilisé trois phases de grâce, de même qu'il a conduit le monde dans trois phases successives. Dieu viendra lui-même dans le monde après que celui-ci aura passé par trois différentes phases de purification. De même, il a opéré exactement de la même façon pour venir à nous au travers de trois phases de la grâce. Dès le début, je vous ai enseigné cela. Je n'ai jamais changé d'opinion depuis. C'est la parole de Dieu. Vous devez garder vos trois ensemble, ainsi que vos sept et vos douze. Les numériques de la Bible doivent concorder parfaitement, ou alors tout s'embrouille. Si vous ne pouvez pas le comprendre, alors continuez à prier. Observez bien cela. Tout doit concorder exactement. La perfection de Dieu se manifeste dans le chiffre 3. Voyez-vous, notez-le bien, il y a le monde antédiluvien, le monde actuel et le monde à venir. Voyez-vous, la première phase dans laquelle il nous a conduits, son plan de rédemption est exactement le même en toutes choses.
Amen.
Il utilise la même méthode. Il ne change jamais. Il a dit dans Malachie 3, « Je suis Dieu et je ne change pas. »
Amen.
Le moyen qu'il emploie est toujours le même. C'est pourquoi s'il a sauvé le premier homme par le sang versé de celui qui est innocent, il agira de même pour sauver le suivant.
Amen.
Tous ceux qu'il sauvera le seront de la même façon. Si à un moment donné, il a guéri un homme au cours de sa vie, que ce soit du temps de Jésus, des apôtres, des prophètes, à quelque époque que ce soit, quand ces mêmes conditions se présentent, il doit le faire à nouveau. C'est vrai. Il ne change pas. Les hommes changent, les temps changent, les âges changent, les dispensations changent, mais Dieu reste toujours le même.
Amen.
Exactement. Quelle espérance cela ne devrait-il pas donner aux gens malades? Si une fois il a guéri une personne, il est obligé de guérir à nouveau quand les mêmes conditions se présentent.
Amen.
Si une fois il a sauvé un homme, il est obligé d'agir de même pour tout autre homme se trouvant dans une situation identique à celle du premier. Si une fois il a rempli un homme du Saint-Esprit, il est obligé d'agir de même pour tous ceux qui ont rempli les mêmes conditions que le premier.
Amen.
Si une fois il a ressuscité un homme du tombeau, il agira selon le même principe pour le suivant et tous les autres.
Amen.
Il ne change pas. Oh, quelle espérance cela me donne! Qu'est-ce? Ce n'est pas dans une quelconque théorie humaine, ou au travers d'un groupe d'hommes qui se sont rassemblés, mais c'est sa parole immuable, seulement.
Amen. Amen.
Vous dites-ce la vérité? Il a dit que toute la parole, que la parole de tout homme soit mensonge, est la mienne reconnue pour vraie.
Amen.
Car les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais.
Amen.
Toute l'écriture a été donnée par inspiration. C'est pourquoi elle est bonne et profitable pour la doctrine. Rappelez-vous que toute l'écriture s'accomplira dans son intégralité.
Amen.
Remarquez comment Dieu la rend parfaitement claire pour nous. N'est-ce pas une magnifique confirmation? Et une grande et riche bénédiction pleine d'amour venant de Dieu, de constater que depuis mon jeune âge, quand pour la première fois Christ traita avec moi, j'ai toujours enseigné ces trois phases de la grâce. Constatez si ce n'est pas vrai maintenant. Le premier pas, c'est la repentance envers Dieu. Ensuite, c'est le baptême d'eau. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ.
Amen.
Voyez-vous, le baptême d'eau suit, montrant que cette repentance était authentique et que nos péchés passés sont pardonnés. Cela ne concerne nullement les péchés à venir. Cela pardonne seulement. Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi donc? Pour la rémission, pour la disparition des péchés passés.
Amen.
Amen.
Cela n'a rien à voir avec le futur. Seul le péché que vous avez commis a été retranché. Vous ne pouvez pas vous repentir pour ce qu'Adam a fait. Vous ne l'avez jamais fait. C'est Adam qui l'a fait. Vous obtenez simplement le pardon de vos propres actions passées. Mais la vieille nature est toujours là. Laissez-moi pendant une minute vous expliquer tout cela sur ce tableau noir. Voici, je dessine ici un cœur humain. Je suis loin d'être un artiste, vous voyez. Voyez ici un cœur humain. est là un autre cœur humain. Celui-ci, un serpent en lui-même. C'est le péché. Là se trouve sa vie. Celui-là a une colombe en lui-même, qui représente le Saint-Esprit, et là sa vie. Celui-ci possède en lui la méchanceté, la haine, l'envie. C'est lui qui en est la cause. Mais celui-là possède l'amour, la joie et la patience. Et ici, d'où cela vient? Maintenant, quand vous êtes pardonné de vos péchés, vous avez seulement ôté ceci, mais la chose qui vous l'a fait commettre est toujours là. C'est la vieille racine du mal. Elle est toujours là. Notez bien ceci. Alors vous vous repentez et vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, montrant par là qu'il a pardonné vos péchés. Deuxièmement, vient la sanctification qui met de l'ordre dans votre esprit en vue de la sainteté afin de penser juste. Le mot sanctification est un mot grec composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. Ensuite, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit afin que Dieu puisse demeurer en nous.
Amen.
Le feu de Dieu purifie notre cœur du péché pour le remplir du Saint-Esprit. Alors nous produisons la même vie que ceci, car elle est en nous. Remarquez, de la naissance naturelle, quand une femme donne naissance à un bébé, la vie naturelle typifie la vie spirituelle. Quand une femme donne naissance à son bébé dans le naturel, on constate qu'il y a d'abord la perte des os, puis vient le sang, et ensuite l'esprit, la vie. Vous saisissez le bébé, vous lui donnez une petite tape sur les fesses et il se met à crier. L'eau, le sang et l'esprit. De même, lorsqu'un bébé naît dans le royaume de Dieu, cela se passe de la même façon. L'eau, le sang et l'esprit. Notez que la seconde phase, la sanctification, purifie la pensée du cœur en vue de la sainteté. Un homme peut se repentir de son péché, mais il y pense toujours. Peut-être s'agit-il d'un homme immoral. À la vue de toute femme immorale, cette chose est toujours là. Peut-être s'agit-il d'un ivrogne. Chaque fois qu'il sent une boisson, ce désir de boire est toujours là. Mais lorsqu'il devient sanctifié, cela le purifie et ôte de lui ce désir. Voyez-vous, cela ôte le besoin. Il peut toujours être tenté, mais il en ôte le désir. Cependant, il n'est pas encore dans la droiture. Mais lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit et de feu, il est complètement purifié.
Amen.
Tout ce qui est mauvais est brûlé complètement. Il est tout à fait nettoyé. Ensuite, il peut être utilisé dans le service de Dieu. La sanctification met seulement à part pour le service. Notez comment tout cela arrive. Un message vient, Martin Luther avec la justification, John Wesley avec la sanctification, les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, ne peut plus y avoir d'autre âge. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Trois phases. Le baptême du Saint-Esprit purifie le cœur. Combien tout cela est remarquable. Dieu fait passer l'endroit où nous devons habiter par le même processus. Il a d'abord appelé l'Église au travers de la justification, puis il a appelé au travers de la sanctification, puis il a rempli du Saint-Esprit et de feu. Il l'a fait passer au travers d'un processus pour que lui-même, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, puisse demeurer dans le cœur humain.
Amen.
Il doit passer par cela avant qu'il puisse y entrer. Remarquez, il a agi de la même façon avec le monde dans lequel l'épouse doit habiter. Son même plan de salut. Notez, le monde antédiluvien, après qu'il se soit repenti à travers l'épouse de ce jour, Noé, Dieu donna ce monde un baptême d'eau, et le submergea. Puis vint la justification, montrant que Dieu était en train d'appeler ce monde déchu depuis l'Éden afin de le restaurer de nouveau. Alors Christ vint et versa son sang sur cette terre, la purifiant et la réclamant pour lui. Voyez-vous, c'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Avez-vous dans l'Écriture comment Satan essaya de lui faire changer le plan de Dieu, lorsqu'il l'emmena sur la montagne, essaya de lui donner le monde sans le rachat du sang? Avez-vous remarqué pour Abraham, ils tentèrent de lui donner la terre, mais il l'acheta en versant de nombreux sicles d'argent, à titre de signe et de témoignage devant le peuple, afin qu'il soit connu qu'en ce jour, j'ai acheté cet endroit.
Amen.
Voyez-vous, il l'acheta. De même, Satan tenta de donner à Jésus le royaume qui lui appartient maintenant. Il essaya de le lui donner comme un cadeau, mais il ne voulut point le recevoir, parce que Satan pourrait encore le revendiquer. Mais il devait être acheté.
Amen.
Amen. Jésus était la parole dans toute sa plénitude. Personne ne pouvait le tromper. Puis maintenant, ils doivent recevoir un baptême de feu.
Amen.
Qu'est-il arrivé? Christ est venu et il a appelé l'Église à la repentance, au baptême dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Puis il l'a sanctifié, descendit avec le feu de Dieu pour brûler toute la corruption, et alors il va habiter dans le cœur humain. Pour le monde qui doit être racheté, pour cette personne rachetée, il utilise sa même méthode. Il l'a baptisé dans l'eau à la destruction diluvienne. Jésus a versé son sang sur cette terre pour la sanctifier. Elle l'a revendiquée. Elle lui appartient. Satan a essayé de lui dire, je te le donnerai. Mais Jésus a répondu, non monsieur, je l'achèterai. Que ce soit un témoignage. Il était élevé comme emblème, témoignant ainsi qu'il l'avait acheté, qu'il l'avait acquise. Mais maintenant, elle doit passer par un baptême de feu. Un saint feu venant de Dieu, qui purifiera la terre et les cieux qui l'entourent. Alors cette terre est rachetée pour que les rachetés puissent y vivre en paix. Notez bien que le baptême de feu sera là pour la purifier du péché, de la maladie, des germes infectieux, des pécheurs, du démon et de tous ceux qui lui appartiennent. Il doit être jeté dans l'étang de feu. Le saint feu venant de Dieu descendra du ciel et la consumera totalement, afin qu'elle soit préparée pour Dieu qui viendra l'habiter. Car Dieu, dans le nouveau monde à venir, doit habiter sur cette terre. Vous direz, Dieu, il habite dans le cœur humain. Oui, mais lui et l'épouse deviennent un. Elles vont leur demander dans le monde nouveau. C'est le même plan de rédemption qui est utilisé pour racheter à la fois le monde et les personnes qui y vivent. Voyez-vous, c'est de cette façon-là que le cœur doit être purifié, avant que Dieu puisse descendre la personne du Saint-Esprit, qui est Christ, venant habiter dans le cœur humain, l'homme doit en premier lieu se repentir. Ensuite, il doit être baptisé dans l'eau, dans le nom, de son nom, pour montrer à qui il appartient. Puis ce cœur doit être purifié par le sang de Jésus. Après tout cela, le Saint-Feu et le Saint-Esprit, venant de Dieu, descendent et brûlent tous les désirs du péché et toute la nature du monde. C'est pourquoi celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, la Bible dit également que c'est impossible, parce qu'un homme né de Dieu ne peut pas pécher. Il ne pêche pas. Il ne lui est pas possible de pécher. Comment peut-il en même temps être un pécheur et un racheté? Comment puis-je en même temps être dans la maison de prêt sur gage et hors de celle-ci? Oh, il nous a rachetés par son sang.
Amen.
Par son esprit, il nous a purifiés. Ensuite, il est venu habiter en nous, l'Église. Non pas les dénominations, mais dans l'Église. Suivez attentivement alors que nous traitons de ceci. L'endroit dans lequel nous devons habiter, la repentance dans le monde antédiluvien amena le baptême d'eau. Ensuite, Christ vint et versa son sang sur cette terre pour la purifier et la réclamer. Alors viendra ensuite la phase suivante, la destruction du monde tel qu'il est maintenant. Tout le péché qui se trouve au-dessus dans les cieux, il est le prince de la puissance de l'air. Il retient les bénédictions de Dieu. De là-haut descendent des éclairs et la foudre qui frappe la terre, les grêlons de glace, la pluie, les typhons et les tempêtes, toutes ces choses viennent d'en haut, ce qui est Satan, le prince de la puissance de l'air. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, vous avez vu comment Satan tenta de la donner à Jésus, sans que celui-ci l'achète. Ainsi, Satan aura toujours un droit sur elle, parce qu'elle est marquée à l'oreille, voyez-vous, mais Jésus l'a rachetée par son sang qu'il a versé, et il l'a remise au propriétaire légitime. Voilà comment il nous a rachetés par son sang, voilà comment il a racheté l'Église. Et maintenant, son baptême de feu purifie de tous les germes, de toutes les maladies, de toutes les épidémies, et même pour les choses spirituelles qui nous entourent. Il agit de la même façon, afin de préparer pour Dieu la nouvelle terre qui va habiter de ce grand âge qui vient. Voyez-vous, il l'a racheté de la même façon qu'il a procédé pour racheter son peuple. Son plan de rédemption est toujours le même, car il est le Dieu qui ne change pas, il est toujours le même dans son plan. Comme je vous l'ai dit et fait connaître antérieurement, en quelque âge que ce soit, Dieu ne peut pas changer. Il le fait connaître chaque fois de la même façon. Dans le monde antédiluvien, c'est par Noé, le prophète, qu'il fit connaître son premier message. Hier, je m'entretenais avec un cher frère qui maintenant est assis avec moi. Il me dit, « Frère Branham, il y a une chose que vous avez dite qui m'a toujours choqué. Qu'est-ce, frère ?» Il me dit alors, « Voilà, vous dites, et c'est vrai, que seule une minorité, un petit groupe, va être sauvé au jour de sa venue. » Alors, nous avons parlé de ce que Jésus lui-même a dit, « Étroite est la porte, resserrez le chemin, et il y en a peu qui les trouvent. » Notez également que la Bible déclare, « Comme il en était dans les jours de Noé, où il n'y eut que 8 âmes qui furent sauvées des eaux. » Ainsi, il en sera de même à l'avènement. Il me dit, « Souvenez-vous, il n'y avait là que 8 âmes. » « Vous n'avez que la moitié de l'image, lui dis-je. » Cependant, Noé est le type du reste qui fut transporté par-dessus, mais pas celui de ceux qui furent enlevés. Enoch, un seul homme, fut enlevé avant la venue du déluge. Cela montre que l'épouse ne passera pas par la tribulation, quoi que ce soit de semblable, car Enoch fut enlevé, un seul homme. Oh, l'Église peut représenter un certain nombre de personnes, mais l'épouse, elle, sera composée d'un très petit groupe. L'Église comprendra peut-être de nombreuses personnes, mais l'épouse, vous voyez, comparée 8 à 1, l'épouse sera 8 fois moins nombreuse que l'Église. Si les justes sont sauvés avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Que deviendront ceux qui connaissent le bien et qui font néanmoins le mal? Que deviendront ceux qui préfèrent suivre les règles des dominations plutôt que la parole de Dieu, et pourtant, ils se disent chrétiens, portant le nom de Christ? Noé fut le type parfait de ceux qui ont été transportés par-dessus. Souvenez-vous, lorsque Noé est sorti, Cam était avec lui. Le péché était toujours là. Le péché fut transporté par l'arche. L'incrédulité, le doute, fut transporté dans l'arche au-dessus du jugement, mais Enoch s'éleva plus haut que l'arche. Il s'en alla dans la présence de Dieu. Mais Noé la traversa et en sortit. Le péché était toujours là, un type du millénium et de la condition du monde. Le millénium n'est pas la fin de cela. Il y aura encore un temps après le millénium. Le millénium est un espace de temps, mais pas la nouvelle terre. Non, absolument pas. Nous y reviendrons plus tard. Voyez-vous, la terre rachetée retourne à son propriétaire original.
Amen.
Il l'a prise à Satan. Il a enlevé la terre à Satan exactement comme il vous a libéré de Satan.
Amen.
C'est ainsi qu'il a délivré de Satan la jeune femme au puits. Là se trouvait le prêtre. Il pensait être avec Dieu et il n'avait rien. Voyez-vous, j'aimerais vous dessiner cela sur le tableau noir. Nous voulons rendre ceci vraiment clair, afin que... Maintenant, regardez bien ce dessin. Ici, Il y a Dieu, ce Dieu qui est l'Éternel. Il n'y a personne d'autre que lui. Mais en Dieu se trouvent des attributs. Maintenant, ceci représente la parole. La parole de Dieu qui fut faite chair et habita parmi nous dans la personne de Jésus. Maintenant, celui qui est ici, nous allons le faire comme ceci. Voilà la femme au puits. Ici, c'est le prêtre, le pharisien. Et où que vous voyez qu'il n'y a rien, cela veut dire la grâce et le salut. Donc, au commencement était la parole, et la parole fut faite chair, et elle a habité parmi nous. Il y a trois phases. Premièrement, c'était un attribut. C'était Dieu qui, dans sa pensée, désirait se faire homme, et qui l'a réalisé en la personne de Jésus. Maintenant, si jamais vous y êtes, vous étiez déjà avec lui alors. Car il n'y a qu'une forme de vie éternelle. C'est Dieu. Vous deviez être une partie de Dieu au commencement.
Amen.
Ce n'est pas là votre choix, c'est lui qui vous a choisi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Maintenant, regardez ici, ce prêtre. Nous voyons que sa vie passée est derrière lui. Sa prédestination, là-bas derrière, c'est le péché. Ici en dessous, c'est l'enfer. Cette petite partie ici représente sa pureté. C'était un prêtre. Il était un homme honorable. Ceci le représente. Il devait être un homme bon, sinon n'aurait jamais pu devenir prêtre. Mais voyez-vous, comment il y est parvenu? Par une connaissance intellectuelle. Voyez maintenant cette jeune femme, sa vie passée est décrite ici, c'est une prostituée, mais tout au fond d'elle, il y avait un petit brin d'entendement. Je sais, dit-elle, lorsque le Messie viendra. Cela s'y trouvait, voyez-vous. Notez que lorsque Jésus est venu, il rendit manifeste la parole, car la parole discernait les pensées qui se trouvaient dans le cœur. Comme le déclare Hébreux 4:12, la parole discerne les pensées du cœur. Il est venu comme le Fils de l'homme, le prophète. Alors qu'arriva-t-il? Le prêtre, ne possédant qu'une connaissance intellectuelle, déclara, c'est un démon, car c'est ainsi que sa dénomination l'appelait. Qu'est-ce que cela produisit? Comme il n'avait pas de représentation, cela le laissait dans les ténèbres. Mais cette jeune femme n'avait rien à présenter. Elle était aussi corrompue et souillée qu'elle pouvait l'être. Mais attention, tout au fond d'elle se trouvait une représentation. Elle s'attendait à ce que cela fût fait chair, et quand tu lui dis, « Va dire à ton mari de venir ici », elle lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as dit la vérité, car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu en as eu cinq, et maintenant c'est le sixième. » La femme répondit, « Seigneur, tu n'es certainement pas Belzébul, car je vois que tu es un prophète. » Nous savons que le Messie, appelé Christ, doit venir. Quand il sera venu, il fera cela. Jésus lui dit, je le suis. Il n'y avait plus de doute possible. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Elle le vit, elle le crut et s'en alla. Pourquoi? Que lui est-elle arrivée? Elle avait été rachetée. Remarquez qu'il est venu pour être un rédempteur. N'est-il pas vrai? Que veut dire racheter? Ramener. Pourquoi n'a-t-il pas racheté le prêtre? Parce qu'il n'avait jamais été là-haut. Il ne possédait aucune représentation. Jésus est venu pour racheter ceux qui étaient tombés. Cette femme était tombée, mais dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait dans sa pensée, et il vint pour la purifier.
Amen.
Il savait qu'elle possédait la vie éternelle, voyez-vous? Quand au prêtre, que lui fit cela, cela le renvoyait à sa destination. Il ne possédait rien depuis le commencement, mais seulement une connaissance intellectuelle. Écoutez bien, mes amis, si la seule chose que vous possédez, c'est simplement une connaissance intellectuelle, vous devez alors recevoir quelque chose de différent. Vous ne pourrez jamais l'obtenir à moins de posséder une représentation. C'est la raison pour laquelle je crois que vous venez de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. La parole vivante est rendue manifeste. Maintenant, remarquez comment au commencement il fit connaître sa voix par ses prophètes. Il n'a jamais changé sa façon de faire. Le salut, il l'a justifié, il l'a sanctifié, il envoya le Saint-Esprit et le feu pour brûler en lui tout péché, puis il habita lui-même en lui. C'est de la même manière que Dieu utilise son plan de rédemption pour la terre. Celle-ci se repentit et fut baptisée dans l'eau par Noé. Jésus vint alors et la sanctifia en répandant son sang sur elle et la réclama pour lui. Et sur la nouvelle terre qui doit venir, il doit y avoir un baptême de Saint-Feu pour la purifier de chaque démon, de chaque germe, de chaque maladie, de tout ce qu'il y a afin de la renouveler. Puis je viens un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous devenez une nouvelle personne. Amen.
Alléluia.
Pas seulement une vieille personne rapiécée, en joignant une église ou en essayant de tourner une nouvelle page, mais vous êtes une unité complète et battant neuve.
Amen.
Dieu s'empare du vieil homme et le brûle totalement avec le Saint-Esprit et le feu et vient lui-même.
Amen.
Et envoie votre représentation. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi.
Amen.
Le voyez-vous? Le même plan, la même manière. Satan sera enlevé de la terre. Exactement comme Satan fut enlevé de vous. Satan ne peut pas importuner. Il peut tenter, mais il ne peut pas atteindre un chrétien né de nouveau. Car Dieu, dès la fondation du monde, l'a préconnu.
Amen.
Il a envoyé Jésus pour le racheter et le sang parle pour lui. Comment peut-il pécher alors que cela ne peut même pas être vu par Dieu? La seule chose qu'il entend, c'est votre voix. Il voit votre représentation. Amen.
Alléluia.
C'est vrai, voyez-vous? Le monde est l'un de ses attributs, comme vous-même, vous êtes l'un de ses attributs. Le monde est devenu l'un de ses attributs parce que dès le commencement, c'était dans la pensée de Dieu d'avoir un monde, d'être sur un trône, d'être un roi, d'être un rédempteur, d'être celui qui guérit. Ce sont ses attributs.
Amen.
Il en est de même de vos attributs. Je ne peux pas prononcer le mot poteau à moins que je ne pense à poteau. Je ne peux pas dire homme à moins que je ne pense à homme. Et quand je pense à homme, alors je dis homme. La pensée, c'est mon attribut, et l'expression, c'est la parole. Voyez-vous, c'est comme Ésaïe. Comment a-t-il pu dire qu'une vierge allait concevoir? Qu'est-ce qu'une pensée? Beaucoup d'entre vous se demandent comment le discernement peut bien venir. Je vais vous le dire. Voyez-vous, c'est une parole que je prononce, mais ce n'est pas ma pensée, parce que je l'ignore. Je ne connais pas la pensée. Comment puis-je vous dire qui vous êtes et d'où vous venez alors que je ne vous connais pas? Comment puis-je vous dire ce que vous avez fait il y a 10 ans alors que je ne vous ai jamais vu de ma vie? Comment puis-je vous dire ce que vous ferez dans 10 ans et où vous le ferez? Comment je puisse connaître le futur? Mais ceci est la pensée de quelqu'un d'autre.
Amen.
Que la pensée qui était en Christ soit en vous.
Amen.
Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Alors voyez-vous, ce n'est pas votre propre pensée, mais c'est sa pensée au travers de vous. Et vous n'exprimez pas vos propres paroles, vous exprimez ses paroles.
Amen.
Voilà pourquoi souvent les frères sont troublés avec l'interprétation des langues. Voyez-vous, ils disent des choses qui ne sont pas correctes et ne réalisent pas que cela vient de Satan. Vous dites, dans le jardin de Dieu, attendez simplement que nous terminions. Cherchez pour voir s'il n'en est pas ainsi. L'ivraie et le blé poussent dans le même champ. Tous deux vivent grâce au même soleil et à la même pluie. Voyez-vous? Mais si parmi vous il y en a un qui soit prophète, moi le Seigneur je lui parlerai. Si ce qu'il annonce arrive, alors cela vient de moi. Car il n'exprime pas ses propres pensées, mais il exprime mes pensées.
Amen.
Mes attributs sont les choses qui doivent sortir et j'utilise sa bouche pour les exprimer. Alors, après qu'il les ait prononcées, elles doivent se réaliser.
Amen.
Les cieux de la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Ésaïe a dit, une vierge sera enceinte. C'est réglé, elle va concevoir. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Oh, Dieu fait connaître par ses prophètes tout ce qu'il va faire, parce que ce sont les attributs de ses pensées exprimées. C'était là, dans cette femme. Était l'un de ses attributs. Voyez-vous, il y avait là un prêtre qui représentait la lumière. Il avait appris de la Bible. Il avait appris que Dieu était Dieu. Il avait appris que la sainteté était juste. Il avait appris qu'il existait une loi de Dieu. Il avait appris cela par une conception intellectuelle. Il était né dans la lignée juste. Il était un lévite. Mais il ne connaissait cela que par une conception intellectuelle. Et quand vint la lumière de l'heure, voyez-vous, il avait appris par ce qui s'était passé, non par ce qui était en train de se passer, mais par ce qui s'était passé. Et lorsqu'il découvrit ce qui était en train de se passer, sa dénomination ne dit rien à ce sujet-là. C'est pourquoi il n'avait aucune représentation de cela. Mais il y avait un rédempteur sur la terre à ce moment-là pour racheter les attributs de Dieu.
Amen.
Et elle le reçut. Elle ne le mit pas en doute. Elle dit que le Messie viendra, il fera cela. Pour elle, c'était réglé. Quand elle le vit s'accomplir et qu'il lui dit « Je suis le Messie », ce fut réglé. Il n'y avait plus de questions à poser. Elle partit seulement en disant à tous les autres « Venez, voyez celui que j'ai trouvé. » La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit avec le feu, tout cela nous purifie. Et alors, nous pouvons être ce temple dans lequel il pourra habiter. La vieille structure du monde ne fut pas détruite par les eaux quand il fut lavé. La vieille structure de la planète, avec les matériaux qu'elle contient, et que Dieu y plaça, ne fut pas détruite quand le premier monde fut détruit. Pourtant, la Bible dit qu'il fut détruit. Mais cela ne détruisit jamais la structure. Cela détruisit simplement le péché et les pécheurs qui étaient sur la terre. L'ossature resta. Mais voyez-vous, la justification, comme vous les baptistes et les méthodistes l'imaginez, la justification, le fait de croire et d'être baptisé, tout cela n'est pas suffisant. Vous allez ensuite errer, retourner aux choses du monde, coupant vos cheveux et portant des shorts et faisant tout le reste. Voyez, rien n'est encore arrivé. Vous avez simplement regardé en arrière pour voir que vous avez mal agi. Qu'a apporté la justification dans le monde? Absolument rien. Cela recommença de nouveau. Il y a autant de péchés qu'avant. Si c'est tout ce que fait un homme, c'est le plus loin qu'il ira. C'est ce que devrait penser le grand évangéliste Billy Graham quand il dit « Je vais quelque part et j'ai 30 000 convertis, mais si je reviens l'année suivante, je n'en trouve plus que 30. » C'est le plus loin qu'ils allèrent. Voyez-vous, sûrement ils se sont repentis. Je crois que la plupart d'entre eux, ou au moins quelques-uns, se sont repentis. Mais ce n'est pas suffisant, cela le prouve. Ainsi, la structure du vieux monde n'a pas été détruite par les eaux. Le monde fut simplement lavé. Il reçut son baptême. Il fut baptisé. Ainsi, la structure subsistera bien qu'il sera brûlé par le feu.
Amen.
Cela ne détruit pas la terre. Vous voyez, cela détruit simplement le péché qui s'y trouve. Notez ceci, vous qui étudiez la Bible, et spécialement le docteur Veil qui me regarde en ce moment. Pierre, dans 2 Pierre 3, utilise le mot « monde », qui vient du mot grec « cosmos », ce mot signifiant l'ordre du monde. La terre passera, tous les éléments brasés se fondront. Cela ne signifie pas que la terre, la planète passera. Mais le monde, le cosmos, lui disparaîtra, c'est-à-dire la politique, les pécheurs, les systèmes, le péché, la maladie, les germes, tout ce qui est faux. Une fois, Dieu a ébranlé les cieux, mais cette fois, il dit qu'il ébranlerait la terre, les cieux de la terre, ou plutôt, qu'il ébranlerait la terre, mais que cette fois, il ébranlerait les cieux, voyez-vous, car nous recevrons un royaume qui ne pourra être changé. Ce sera le royaume éternel. Observez comment il s'y prend. Remarquez que Pierre dit, les éléments brasés seront dissous, et les œuvres qui sont en elles seront brûlées entièrement. Non pas la planète, mais les œuvres qui s'y trouvent. Les œuvres humaines, tous leurs hommes politiques, toutes leurs dénominations, tous les plans humains disparaîtront dans le feu. Et les cieux passeront avec fracas. Avez-vous remarqué ici, les cieux passeront avec fracas. Écoutez bien. La terre entière sera en feu, et cela enflammera tous les gaz que la terre renferme, et ils exploseront. Exactement. La Bible dit, Pierre dit ici, les cieux et la terre passeront avec fracas. Une telle explosion la secourra. Oh là là! Car cela doit détruire toutes les maladies, tous les chardons, toutes les épines, etc.
Amen.
Le feu brûlera entièrement cela. Rappelez-vous qu'il ne s'agira pas seulement d'un feu au sens littéral, mais d'un feu saint, qui emportera Satan, tous les siens et tous les démons. Les cieux et la terre passeront, détruisant tous les germes, tous les insectes, toute la vie naturelle sur elle et autour d'elle. Même le H2O, l'eau, explosera. Pensez à cela, vous parlez d'un bruit. Vous pensez que ce petit bruit là-bas, Tucson, représentait quelque chose? Lorsqu'il ouvrit les sept seaux, cela secoua la région tout autour, et les gens parlèrent. Mais attendez seulement que cette terre reçoive son baptême. Vous savez, quand un homme reçoit le baptême de feu, il y a beaucoup de bruit dans les environs. Il y en a qui pensent que c'est une honte d'entendre des gens criant de la sorte. Attendez seulement que la terre reçoive son baptême. Le H2O, l'eau, explosera, car la Bible dit ici dans Apocalypse 21, et la mer n'était plus. Elle aura explosé. Cela changera la surface entière de la terre. Elle explosera et volera en éclats. À l'extérieur, la croûte sera complètement détruite jusqu'à des centaines de mètres de profondeur. Les atmosphères, les gaz qui sont à l'intérieur de la terre, qui ne peuvent traverser avec leurs engins, ils disent qu'il y a une zone tout au fond qui contient toutes sortes de gaz. Or, cela explosera. La sainte colère de Dieu viendra sur elle, elle la purifiera et toute sa surface sera changée.
Amen.
Beaucoup d'entre vous désirent relever le mot grec pour passer. Il a fallu que je fasse des recherches. Je me disais, comment ce monde va-t-il passer alors que nous allons vivre sur celui-ci? Mais si vous faites attention, pour ceux qui veulent le relever, je vais vous l'épeler, car je n'arriverai pas à le prononcer. C'est P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A. Je ne sais pas comment le prononcer. C'est ainsi que lorsque l'inspiration attire mon attention sur quelque chose, je retourne à la source pour trouver la signification du mot. Je ne peux pas prononcer ce mot. Mais en cela, le Seigneur m'a donné un moyen. Je vais rechercher ce que ce mot signifie, et alors je l'obtiens. Ensuite, je l'obtiens de nouveau. Vous voyez, les cieux et la terre passeront. Ce mot signifie passer d'une forme à une autre. Il ne veut pas dire anéantissement. Le mot anglais passer signifie anéantir. Mais le mot hébreu ou grec ne veut pas dire passer dans le sens de disparaître, mais il signifie passer d'une chose à une autre, ou passer d'une condition à une autre. Notez que Paul, dans Tite 3.5, si vous voulez le relever pour le lire plus tard, utilise ce même mot en lui donnant le sens de régénération de l'homme. Cet homme est passé de l'état de pécheur à celui de saint. Il n'est pas complètement anéanti. Quand un homme est changé, il n'est pas anéanti, mais il est un être changé. Il a passé de l'état où il se trouvait à ce qu'il est, mais non anéanti. Jésus utilisa ce même mot dans Matthieu 19-28, pas 28-19, mais 19-28. Il leur dit, « Vous serez assis avec moi dans le royaume de mon Père, régénérés, vous voyez, changés, quand vous êtes changés. » Il utilisa le même mot. Il utilisa le même mot quand il leur dit, « Déliez l'anneau et laissez-le aller. » Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare, « Déliez-le, c'est-à-dire, changez-le. » Il était lié, « Laissez-le aller. » Que cela signifie-t-il? La terre sera déliée de l'étreinte de Satan.
Amen.
Elle sera déliée, déliée de la politique. Elle sera déliée des systèmes religieux dénominationnels pour être utilisée lorsque le royaume de Dieu sera établi ici sur la terre. Mais aussi longtemps que la politique et tout cela se trouvent entre les mains de Satan qui est souverain de la terre, cette terre est sa propriété, elle lui appartient, mais maintenant, Christ l'a rachetée. Une fois, j'ai été sa propriété, mais plus maintenant. Une fois, cette jeune femme fut sa propriété, mais plus maintenant. Voyez-vous, il est venu pour en briser l'étreinte. Il m'a libéré de l'étreinte du péché de Satan sur ma vie, sur notre vie. Et maintenant, nous ne lui appartenons plus. Ne m'avez-vous pas entendu dire souvent dans mes prières, « Retire tes mains de ce qui est la propriété de Dieu. » Amen. Ayez la foi pour réclamer ce qui vous appartient. C'est votre droit. Retire tes mains d'elle. Retire tes mains de lui. Voyez-vous, c'est la foi qui le fera. Oh là là. Non pas anéantir, mais simplement retire tes mains de ceci pour le délier, pour le laisser aller. Cela doit être changé. La terre changera. La politique changera. Les religions changeront. Les dénominations disparaîtront. La politique disparaîtra. Alors le royaume de Dieu sera établi. Nous lisons d'Apocalypse 6, 14, où il est dit qu'il se retirera comme un livre qu'on roule. Jean, dans Apocalypse 6, 14, dit, « Je vis le ciel et la terre se retirer comme un livre qu'on roule. » Jésus a déclaré, « Les cieux et la terre passeront, ou, en d'autres termes, les cieux et la terre seront changés. »
Amen.
Ici, il a de nouveau utilisé ce même mot, non pas anéanti, car plus loin dans Apocalypse 21, 2 à 24, il a vu la nouvelle Jérusalem venant de Dieu qui descendait du ciel et se posait sur cette terre. Cela ne signifie pas qu'elle sera anéantie, mais que les systèmes seront changés. Daniel vit la même chose. Le rocher qui frappa le monde se détacha sur le secours d'aucune main, et l'image entière des systèmes fut brisée, et devint comme la balle de l'air d'été emportée par le vent. Et le rocher lui-même devint une grande montagne qui couvrit toute la terre. Observez cette montagne maintenant, pendant un petit moment, cette montagne qui couvrit la terre. Nous trouvons aussi qu'il est dit dans l'Apocalypse, « Les rois de la nouvelle terre y apporteront leur honneur et leur gloire. » La nouvelle Jérusalem reposera sur cette terre. Vous voyez, cela sera simplement changé. Vous êtes en stature le même homme ou la même femme que lorsque Dieu vous appela. Mais voyez-vous ce qui est arrivé? Il y eut une régénération. La vie ancienne disparut, les désirs anciens disparurent. Avant cela, vous aviez l'habitude de boire, de jurer, de vous disputer, de créer le trouble, de flirter, d'être immoral. Tout cela est mort en vous, voyez-vous. Mais maintenant, vous êtes utilisé. Alors, vous étiez un instrument de Satan. Maintenant, vous êtes des rachetés. C'est ce que le monde sera. Il sera racheté de la même manière. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, comme vous êtes une nouvelle créature. Le mot grec, là, tout le monde le sait, dit que vous êtes une nouvelle création.
Amen.
Amen. Une nouvelle création dans le même vieux temple. Alléluia. Maintenant, suivez bien ce qui se passe ici. C'est glorieux. Très bien. Nous découvrons que cette terre contiendra les rois de la terre. De même, dans Matthieu 5, 5, Jésus a dit que les débonnaires hériteraient la terre. Cela ne signifie pas que nous allons avoir une autre terre. Ce sera la même terre. J'essaie de vous présenter le plan de la rédemption, je ne peux rien faire d'autre. Le baptême de feu sur elle n'est là que pour la purifier et en faire une place convenable pour que ses débonnaires puissent y habiter.
Amen.
Voyez-vous? Oh, c'est ainsi qu'il l'a fait pour nous, avant qu'il pût entrer dans cette création et y habiter. Il dut nous donner le baptême de feu, ensuite le Saint-Esprit entra et y habita, le baptême de feu. Quand vous recevez ce baptême de feu, alors le Saint-Esprit peut entrer. Quand il entre, que fait-il? Il brûle en vous tout ce qui est contraire à la parole. Voyez-vous? Il ne veut croire rien d'autre que la parole, parce qu'il est la parole.
Amen.
Nous en parlions l'autre jour au sujet de l'évidence du Saint-Esprit. Voyez-vous? L'évidence du Saint-Esprit, c'est lorsque vous pouvez recevoir la parole, non un système, et que vous en avez une claire compréhension. Comment pouvez-vous avoir une claire compréhension de la parole? Observez-la se confirmer elle-même. Vous direz, je vois que celui-ci le fait, et que celui-là, bien sûr, livré vit de la même façon, mais cela doit être la parole entière. Pour être l'épouse, vous devez être une partie de lui. Il est la parole, voyez-vous. Et quelle partie de lui est-ce? C'est la parole qui était promise pour ce jour quand il appelle son épouse. Vous êtes une partie de cela. Avez-vous saisi? Maintenant, ne le perdez pas. Il en fait un endroit convenable pour y vivre toute l'éternité. Notez bien que cela ne se réfère pas. Ce règne du millénium, ces 1000 ans, ne sont pas la nouvelle terre. Voyez-vous, le règne du millénium est un règne différent. C'est là où nous allons, le millénium, mais ce n'est pas la nouvelle terre, ni le nouveau ciel. Non, non, c'est simplement un lieu de repos. Voyez-vous, une période de repos, pas du tout dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Parce que, voyez-vous, dans le millénium, nous aurons des choses qui ne pourraient entrer dans cela. C'est un type du vieux septième jour dans l'Éden. Le septième jour, après qu'il eut créé le monde, le septième jour, il se reposa dans l'Éden. Et le millénium, voyez-vous, maintenant le vieux monde est vieux d'environ 6000 ans. Notez que tous les 2000 ans, il y eut une destruction. Voyez-vous, après les 2 premiers 1000 ans, le déluge est arrivé. Et la baptisa de quoi? D'eau. 2000 ans plus tard, Jésus est venu pour la sanctifier et la réclamer. Son sein est tombé sur elle, il l'appelle sienne. Très bien, et je reviendrai, dit-il, comme roi et accompagné de sa reine. Et que fait-il 2000 ans plus tard? Il vient et donne la période de repos, et ensuite il la brûle et la nettoie pour les siens, et il remet les siens. Notez-le bien, ce n'est pas le monde parfait. Ce millénium est un type du septième jour. Après vient le jugement du trône blanc. Vous voyez, nous avons encore le jugement. Nous avons toujours une notion de temps dans le millénium. C'est un jour, 1000 ans. Il y a un élément de temps. Ne mélangez pas cela avec la nouvelle terre, car ce ne l'est pas. Quelqu'un pourrait me dire ceci. Maintenant, frère Branham, qu'allez-vous faire maintenant? Vous avez terminé avec la série complète des 7. Qu'allez-vous faire maintenant? Vous êtes un dispensationaliste, ce que je suis effectivement, et je crois que Dieu en est aussi. En étant aussi, vous êtes arrivé au bout des types, des dispensations. Car si vous allez mettre quelque chose au-delà de ce septième jour, comment y parviendrez-vous? Comment allez-vous, où allez-vous maintenant? Très bien, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Je ne suis pas encore à bout de dispensation. J'ai ici un autre passage de l'Écriture. Rappelez-vous que tout cela doit s'accomplir dans tous ses détails. Voyez-vous, vous allez me dire, frère Branham, vous essayez de placer quelque chose au-delà de ce septième jour, de ce sabbat du septième jour. Écoutez, Dieu a travaillé 6 jours pour créer la terre et s'est reposé le septième, lequel est seulement un type du temps. Mais je viens de dire qu'ici, nous devenons éternels.
Amen.
Vous me dites, maintenant, où est votre type? Vous nous avez dit être un typologiste et vous êtes arrivé au bout de tous les types. Non, je ne suis pas encore arrivé au bout. Nous allons découvrir que nous ne nous y sommes pas encore arrivés. Lisons dans Lévitique le 23e chapitre. Je désire que vous remarquiez cela dans le Lévitique où nous étions dimanche passé. Cela, c'est ce qui m'a donné l'idée. Le 23e chapitre du Lévitique, verset 26. Rappelez-vous, il y a 7 jours de fête. La fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête de la gerbe que l'on agite, etc. Ces 7 jours de grande fête étaient simplement un type des 7 âges de l'Église. Vous souvenez-vous combien de sabbats il y a entre l'une et l'autre? Vous voyez, il y a 7 sabbats entre Pentecôte et les trompettes, ce qui était les 7 âges de l'Église. Il y avait également 7 jours de fête représentant les 7 âges de l'Église. Gardez la suite dans vos nombres. Vous dites alors, frère Branham, maintenant, vous êtes arrivé au bout, vous avez eu vos 7. Très bien, prenons maintenant la dernière fête, qui était la fête des tabernacles. Remarquez ici, dans le 36e verset, « Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation. Il y a un autre temps sanctifié qui vient, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Maintenant, nous avons un huitième jour. Il n'y avait que 7 jours, mais ici, nous parlons du huitième jour de sainte convocation. Remarquez, ne faites aucune œuvre ce jour-là. Mais qu'est-ce que le huitième jour? C'est le retour au premier jour. Pourquoi cela? Cela parle de l'éternité, comme celles-ci tourneront sans qu'il y ait d'endroit où s'arrêter. Amen. Voyez-vous cela? Notez que c'est le huitième jour, le dernier jour de la fête des tabernacles. Après le dernier jour de la fête, après le dernier âge de l'Église, après le dernier des sept jours passés sur la terre, après le millénium, que vient cette sainte convocation. Souvenez-vous qu'il s'agit là de la fête des tabernacles, de ces tabernacles qui sont des lieux de rassemblement. Amen. Nous sommes dans le millénium. La Bible dit, ils construiront des maisons et ils les habiteront. Mais sur la nouvelle terre, il est déjà parti pour préparer la place. C'est déjà construit.
Amen.
Nous n'avons rien à faire avec la construction de celle-ci. Amen. C'est éternel. Oh, combien j'aime ce mot. Il y aura une sainte convocation le huitième jour. Et comme il n'y a que sept jours, le huitième jour est le retour au premier jour. Le huitième jour, il y a une sainte convocation. Remarquez que les sept jours sont liés à la vieille création, le temps du monde. Le septième jour, c'est le millénium, le jour du repos. Comme Dieu a travaillé six jours et s'est reposé le septième, l'Église travaillera six jours et se reposera le septième. Mais il y a toujours une notion de temps. Je ne parle pas de ce qui est éternel. Mais voyez-vous, il n'y a pas une chose telle que huit jours. Vous retournez au premier jour. Voyez-vous,
Amen.
Le premier jour. Le sabbat parle de la vieille loi qui devait disparaître. L'observation du sabbat a disparu, ou plutôt, comme je l'ai dit, fut changée en quelque chose d'autre. Cela n'a pas disparu, ce fut simplement changé de l'ancienne loi qui était de garder un certain jour de la semaine. Dans Ésaïe 28:10, il est écrit, « Car c'est précepte sur précepte, ici un peu, là un peu, retenez ce qui est bon, car c'est par des lèvres bégayantes et dans une langue étrangère que je parlerai à ce peuple, et voici le repos. » Voyez-vous, vous entrez dans la vie, n'observant plus un jour ou une ombre. Paul dit dans Galates 4, « Vous observez des jours, des mois, des temps, des années, je m'effraie de votre expérience. » Voyez-vous, nous ne passons pas dans certains jours ou règles, mais vous passez de la mort à la vie éternelle.
Amen.
Il ne s'agit là plus de jours ou d'époques. Vous passez dans l'éternité. C'est cela la sainte convocation. Qu'en sera-t-il de ces sept jours? Ils disparaîtront, ou comme je l'ai dit, ils seront changés en quelque chose d'autre. Huit jours traitent avec la nouvelle création.
Amen.
Voyez-vous? Et non plus avec la vieille création. Huit jours, c'est la nouvelle création. Car c'est le huitième jour que notre Seigneur est ressuscité des morts.
Amen.
Là se trouve votre autre convocation, la sainteté. Ne tenons plus compte des sabbats, de la fête des tabernacles, de la fête de ceci ou de la fête de Pentecôte. Jésus ressuscita des morts pour notre justification le huitième jour.
Amen.
Après les sept sabbats ou les sept jours, après les sept âges de l'Église, Jésus ressuscita les morts. Le huitième jour, qui est le jour de la sainte convocation, ce qui est le premier jour. Voyez-vous, vous avez terminé votre séjour dans le temps, et vous tombez de nouveau dans l'éternité. N'observant plus les jours, plus les sabbats, et les nouvelles lunes, et les choses comme cela, mais vous avez passé. Vous avez changé de forme, sans pour cela avoir été anéanti. Gloire à Dieu.
Amen.
Mais vous êtes passé de la mort à la vie éternelle.
Amen.
Oh, voyez ce que la Bible nous enseigne. Vous êtes passé de l'une à l'autre. Très bien, le vieux sabbat est passé. Jésus est ressuscité le huitième jour. C'était un jour solennel, saint. Mais ce n'était pas un jour, parce qu'un jour est un espace de temps et que le temps est alors terminé. Cela entrait dans l'éternité. Nous retournons de nouveau au premier jour. Voyez-vous? L'éternité est semblable à un anneau. Vous ne pouvez y trouver aucun angle. C'est ainsi que dans un cercle parfait, vous n'y pouvez trouver aucun endroit où s'arrêter. Vous avancez, peu importe jusqu'où vous allez, vous continuez toujours à avancer. Vous commencez à tourner tout autour comme cela. Vous passez à travers le plancher, à travers la terre. Vous allez au-delà de la terre. Vous avancez toujours et toujours. Tout ce qui a été créé ici-bas, qui a été perverti par Satan et non créé, disparaîtra quand les grandes cloches d'or sonneront et que la trompette sonnera. Et là-bas, au commencement, où le poteau d'attache fut placé en Éden, lorsque l'homme vint sur la terre et tomba, un petit anneau versa son sang. Cela parlait du grand agneau qui allait verser son sang. Sur le calvaire s'éleva la croix qui relia l'Ancien Testament à ceux qui justifiés l'attendaient. Dans cette nouvelle dispensation, à la venue du Seigneur, à la nouvelle terre, la corde de salut, le sang, cette puissance rédemptrice dont je vous ai parlé, a racheté par le même système à la fois l'homme et la terre. Cela réapparaîtra dans l'éternité. Mais tout ce qui sera impie et non prédestiné sera consumé dans les temps de feu. Avez-vous compris? Le huitième jour, Jésus ressuscita pour notre justification. Lui, le roi éternel, avec le royaume éternel, pour être baptisé en cela pour la vie éternelle. Il ne s'agit plus des sept jours, cela n'a rien à voir avec aucun des jours. Il est question d'une autre venue éternelle, d'un temps qui sera éternel. C'est de ce monde que je parle. Notez qu'après 50 jours ou après 7 sabbats, il y a de nouveau une autre sainte convocation. Que s'est-il passé? Le Saint-Esprit tomba le jour de Pentecôte, le huitième jour, exactement 7 sabbats après sa résurrection. Ainsi, cela fait 7 fois de nouveau. Cela vous ramène au premier jour de la semaine, exactement, voyez-vous? Voilà votre sainte convocation. Elle n'a rien à voir avec la chose littérale. Cela va au-delà. Cela se situe dans le royaume de Dieu avec les prédestinés à la vie éternelle, qui n'a jamais commencé, qui n'a jamais eu de commencement. Vous n'avez pas été sauvés tel ou tel jour. Vous étiez toujours sauvés.
Amen.
Jésus vint simplement pour racheter cela. Mais vous étiez sauvés dès le début, parce que dès le commencement, vous aviez la vie éternelle. Une truite ne pourra jamais devenir un gardon ou un têtard. Elle pourra évoluer avec eux dans les mêmes eaux, mais dès le commencement, elle était une truite. Le filet l'a seulement attrapée. Mais elle était ainsi depuis le commencement. Nous ne sommes pas à court de dispensation, n'est-ce pas? Nous sommes en plein dans les Écritures. Il vint 50 jours plus tard. Voyez-vous, le nombre 8 ne peut pas être compté avec la semaine. On ne peut pas compter 8 jours dans une semaine. On ne peut pas le faire. Parce qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine. Comptez de n'importe quelle façon que vous voudrez, dimanche est le premier jour de la semaine. Voyez-vous, vous comptez 7 et vous devez revenir en arrière et recommencer de nouveau. Comptez 7, revenir en arrière et recommencer. Nous vivons à travers tous ces types. Mais lorsque vous atteignez le 8e, vous continuez dans l'éternité. Ce n'est pas au travers de lois, de rites et d'ordres que vous venez, mais c'est par la prédestination. Amen. Voici l'authentique sainte convocation. Nous sommes à la fin du 7e âge de l'Église, de l'âge de Pentecôte. Le voyez-vous? Nous entrons dans la sainte convocation. Nous entrons dans cette réelle et authentique éternité où l'Église est appelée. Non à stationner dans une dénomination quelconque, mais à entrer dans l'éternité en compagnie de son roi éternel. Nous n'avons pas cela du tout. Il n'existe plus de jours, plus de choses de ce genre, plus de temps. Vous êtes passé dans l'éternité. D'où vous êtes venu? Et le commencement, vous y étiez. Si vous avez la vie éternelle, il n'y a qu'une forme de vie éternelle. C'est Dieu. Et vous êtes un attribut exprimé. Voyez-vous? Si vous ne l'êtes pas, vous ne serez de toute façon pas. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Voyez-vous, toutes les anciennes choses disparaîtront, mais pas ces choses, car cela parle de l'éternité. Le Saint-Esprit est éternel. Alors vous êtes dans l'éternité où vous vous trouvez tout le temps. Mais vous venez seulement de reconnaître ce qui s'est passé. Vous avez été créé pour un dessein éternel, parce que vous étiez la manifestation d'un attribut qui était en Dieu. Il a pensé à vous et vous a exprimé. Et il fut une terre pour vous en tirer et faire de vous un être humain. Puis le péché est survenu et il a perverti son plan. Vous venez de toute façon, mais vous étiez perdu avec le monde. C'est pourquoi il est venu et vous a racheté.
Amen.
Vous, l'attribut exprimé, et de la même façon, il a racheté cette terre.
Amen.
Ce qu'il a résolu continue à s'accomplir. Voyez-vous? Oh, alléluia! Oh, cela me fait tant de bien. Pensez seulement à ce qui se trouve devant nous. Dans Éphésiens 1, 10, cela ne s'appelle, si vous l'inscrivez, c'est Éphésiens 1, 10, cela ne s'appelle ni une dispensation, ni le septième jour, cela s'appelle la plénitude des temps. Et quand cette plénitude des temps sera arrivée, c'est-à-dire quand les temps seront accomplis, et qu'il n'y aura plus de temps, alors vous entrez dans l'éternité. Après que le septième âge de l'Église sera terminé, et il est, l'âge de Luther est terminé, l'âge des méthodistes est terminé, l'âge de la Pentecôte est terminé, et maintenant, où allez-vous aller? Dans l'éternité.
Amen.
Il n'y a plus de sept, plus de trois, il n'y en a plus aucun, c'est l'éternité, où il n'y a plus de temps, plus de nombre, plus de toutes ces choses. Amen. Oh là là! Vous rendez-vous compte? Après que le temps aura été accompli, tout le péché aura disparu, aura été enlevé au millénium, au grand trône blanc du jugement, un type du Saint-Esprit. Après que le monde aura passé par le feu et aura été baptisé du Saint-Feu du ciel, que tous les péchés seront partis, tous les germes également, que tous les démons auront disparu, toutes les tentations auront disparu, tout le mal également. Alors que fait Dieu? Il peut enfin siéger sur la terre, parce que le péché aura complètement disparu. Il agit de la même façon que s'il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Il peut venir habiter en vous, et nous pouvons nous asseoir en Jésus-Christ dans les lieux célestes, parce que nous sommes déjà en lui.
Amen.
Je ne dis pas que nous y serons, mais maintenant, nous sommes assis en Jésus-Christ.
Amen.
Comment y parvenons-nous? Par le baptême du Saint-Esprit. Par un même esprit, nous sommes tous baptisés en Christ dans lequel nous sommes actuellement. Nous n'y serons pas, nous y sommes déjà. Il est le grand roi spirituel au-dessus de l'esprit qui est en nous, parce que nous étions en lui au commencement. Voyez-vous, Dieu au commencement, quand il pense à vous, à d'autres, pense en lui-même à se concrétiser. C'était ses pensées. Et comment les exprima-t-il? Il dit, que cela soit, que cela soit. Et cela fut, que cela soit, et cela fut. Par la suite, il continue à dire, que cela soit, jusqu'au jour où le peuple dit que Dieu ne parle plus lui-même. Il dit alors, je leur parlerai au travers d'un prophète. Voyez-vous, depuis ce moment-là, je leur parlerai à travers un prophète. Et le prophète de dire, cela arrivera, il y aura. Et il en fut ainsi, il en fut ainsi, et il en fut ainsi, et ce fut ainsi. Voyez-vous, simplement comme cela. Comprenez-vous maintenant? La plénitude des temps vient après que les temps se soient accomplis. Le péché disparaît après le baptême du monde. Après que le baptême du monde en ait fait un endroit convenable. Plus de maladies, plus de germes, plus d'épines, plus de jardons, plus de mort, plus de chagrin, plus de tristesse, plus de vieillesse, plus rien qui ne représente la mort. Plus rien de faux, tout est correct. Plus rien de naturel, mais tout est éternel. Alors son attribut est exprimé, parce que premièrement, il était là dès le commencement. C'est ce qu'il pensait. Et alors, qu'est-il arrivé? Il mit Adam et Ève sur cette terre et leur dit, « Maintenant, multipliez et remplissez la terre. » Leurs corps furent placés là pour... C'était sa façon de faire. Mais le péché arriva, interrompant son plan. Cela continue à se dérouler de la même façon. Mais que fit Jésus? Dieu descendit et s'exprima lui-même dans la forme d'un homme, d'un être humain. Il donna sa vie au lieu de rester ici, car il en était le roi. Il se donna lui-même afin de racheter le reste. Avez-vous saisi cela? Et quand tout est terminé, alors cela est retiré et le dessein de Dieu est accompli. Il y aura de nouveau un roi éternel avec ses sujets éternels exprimés dans une chair humaine. C'est exactement ainsi que cela arrivera. Le péché est ôté, le diable est parti. Tout est terminé maintenant. Qu'est-ce qui accomplit cela? Actuellement, cette terre ne pourrait être une place où le ciel puisse se trouver. Regardez-la, voyez le péché. Elle doit être purifiée. Aucune personne, aucun homme, aucune femme, aucun garçon, aucune fille, quel qu'il soit, ne peuvent être admis à la chair ou même se réclamer d'être un chrétien qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Vous n'avez aucun droit au souper du Seigneur, à la communion, au lavage des pieds ou à quoi que ce soit, jusqu'à ce que vous ayez été purifiés par le Saint-Feu de Dieu. Aucun homme n'a le droit de prêcher, à moins qu'il ne soit comme Moïse, qui n'ait rencontré Dieu sur cette terre sacrée, et cette colonne de feu lui faisant connaître sa position. Voyez-vous, remarquez tandis que nous continuons, après que le monde aura été baptisé de feu, que tous les germes auront disparu, alors il y aura un endroit convenable pour que les cieux puissent habiter ici sur la terre. Actuellement, le type, c'est d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a passé de cette souillure, comme la jeune femme, à l'attribut exprimé de Dieu. Maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Non, et non pas, nous serons les fils de Dieu. Nous sommes les attributs de la pensée de Dieu. Voyez-vous, maintenant me direz-vous, regardez ce prêtre, n'est-il pas un fils de Dieu? Il était prouvé qu'il ne l'était pas. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas reconnaître? A-t-il dit « Je crois la Bible » Bien sûr. Mais il ne pouvait pas reconnaître la parole exprimée de l'heure. Amen. Il avait seulement une connaissance intellectuelle venant d'un certain groupe qui s'était trouvé avant lui. Et c'est la même chose aujourd'hui. Amen. Voyez-vous, je sais que cette parole est dure, mais c'est la vérité. Il y avait pourtant là la parole qui avait été prononcée précisément pour ce jour. Bien qu'il fût un érudit, une personne célèbre, il ne put la reconnaître. Pourquoi cela? Son érudition et tout cela importait peu. Il n'avait toujours pas la représentation de la prédestination. Voyez-vous, seul celui qui est prédestiné pourra la reconnaître. Et lui seul pourra la voir parce que, regardez, si cela ne prouve pas la prédestination, car si vous possédez la vie éternelle, vous deviez être une partie de Dieu depuis toujours, parce qu'il est le seul qui est éternel. Le voyez-vous?
Amen.
Oh là là! Pensez à cela. Et maintenant, observez ce qui arrive durant le grand millénium. Le péché n'existe plus. Le millénium s'établit maintenant. C'est l'époque où le Saint-Esprit prend sa place, exactement comme il le fait en nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous habitons dans les lieux célestes en Christ, dans sa glorieuse présence. Même la mort physique disparaîtra, exactement comme la mort spirituelle n'existe plus maintenant. Il n'y a maintenant pas de mort spirituelle possible pour un saint de Dieu baptisé. Bien que mort, il vivra, car celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Toute l'Écriture doit s'accomplir. Vous ne pouvez pas mourir. Vous avez la vie éternelle. Seulement, le Rédempteur vous a permis de le reconnaître, et vous étiez toujours cela. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez le jour dans lequel vous vivez. Combien le voient? Levez la main. Merci. Voyez-vous, vous reconnaissez le jour dans lequel nous vivons. Les méthodistes disent que vous criez, vous l'avez. Beaucoup d'entre eux ont crié sans l'avoir. Les pentecôtistes disent que vous parlez en langue, vous l'avez. Beaucoup d'entre eux ont parlé en langue sans l'avoir. Regardez tous les rites qu'observaient les pharisiens. Mais quand la parole fut rendue manifeste, ils ne la reconnurent pas. Voyez-vous, si vous faites partie de l'épouse, l'épouse est une partie de l'époux. Le seul moyen de le savoir, c'est de reconnaître quelle partie de cet époux, de cette parole vous êtes. Autrement, vous ne pouvez reconnaître que vous faites partie de l'épouse. Combien parmi vous comprennent cela? Vous voyez, vous devez reconnaître votre position. Vous ne pouvez pas reconnaître celle de quelqu'un d'autre. Que serait-il advenu si Moïse était venu avec le message de Noé? Et Noé en était une partie. Cela n'aurait pas marché. Et si Jésus était venu avec le message de Moïse? Cela n'aurait pas marché. Voyez-vous, c'était un âge différent. C'était une prophétie différente. Une partie différente de la parole devait être accomplie là. Ils étaient dans un autre jour de la semaine. Le travail du mardi ne peut être fait le mercredi. Celui du mercredi doit être accompli le mercredi, voyez-vous? Le samedi, on doit faire le travail du samedi, voyez-vous? Il disait, « Oh, nous avons Moïse !» Mais il leur répondit, « Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu, car il est celui qui a parlé de moi. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. » Vous voyez l'idée? Oh là là! Voyez-vous? Puis Jésus dit dans Jean 14, « Quand l'Esprit Saint sera venu, il vous rappellera toutes ces choses. » Il vous montrera dans quel jour vous vivez. Et encore une chose par laquelle vous le reconnaîtrez, il vous montrera les choses à venir. Voyez-vous, nous voici à nouveau dans le prophétique, quand il sera venu. Voyez-vous, dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux ne seront plus jamais obscurcis. Quand cette nouvelle terre sera venue, le diable sera lié. Actuellement, Satan est délié, il est toujours un accusateur. Mais lors de la nouvelle terre, il sera enchaîné et précipité dans l'étang de feu, dans ce cerf-feu. Et maintenant, considérons pendant quelques minutes ce que sera cette nouvelle terre. Dans cette nouvelle terre, les cieux ne seront plus jamais assombris. Non, cela venait de la malédiction. Ils ne seront plus jamais obscurcis par des nuages en colère. Les vents ne souffleront plus comme de nos jours. Non, ils ne déracineront plus les arbres. Ils ne soulèveront plus les maisons en détruisant tout le sol en passage. La foudre et la colère vomies par Satan ne viendront plus tuer un homme marchant sur la route ou incendier un bâtiment. Voyez-vous, non, jamais plus. Il n'y aura plus de typhons balayant tout, plus de tempêtes, plus de tornades détruisant des maisons, tuant de petits enfants. Non, non, il n'y aura plus qui essaye de te détruire. Cela n'arrivera plus. Satan est jeté dehors. J'aimerais pouvoir disposer de plus de temps. Je suis obligé de laisser quelques passages de l'Écriture pour que nous terminions pas trop tard. Tu dois encore prier pour les malades. Les cieux et la terre se sont rencontrés. Dieu est réconcilié avec l'homme. Un Éden restauré a commencé. Voyez-vous, toute malédiction a disparu, exactement comme toute la malédiction du péché est partie lorsque le Saint-Esprit vous a accepté. Voyez-vous, ce n'est pas vous qui l'avez accepté, c'est lui qui vous a accepté, car c'est un attribut de Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'attribut, la pensée de Dieu qui vous a accepté, parce que vous avez été ordonné dans ce but. Cependant, vous étiez né dans le péché, mais Dieu avait cet attribut ici sur la terre, vous vous êtes exprimé, il est descendu et il vous prend. Voyez-vous, vous êtes de retour ici, c'est à ceci que vous appartenez. Voyez-vous, le péché a perdu son pouvoir, c'est vrai. Le désir du péché a déjà quitté votre cœur quand le Saint-Esprit entre. Vous êtes une personne restaurée. De même, lorsque la terre sera restaurée par la même chose, alors il n'y aura plus de malédiction, plus de tempête, plus de vent, plus de typhon. Vous êtes réconciliés. L'homme et Dieu se sont rencontrés. La nouvelle terre reprendra de nouveau sa beauté de l'Éden. Pensez que cette terre sera baptisée de feu. Elle prendra feu et sera consumée. Les éléments seront embrasés. Tout ce qui aura été édifié sur cette terre sera brûlé. Toute l'eau explosera. Tout sautera et explosera. Les volcans feront éruption. Et de la lave brûlante sera projetée dans les airs jusqu'à des milliers de kilomètres de hauteur. Tout germe, le Saint-Esprit de Dieu purifiera chaque atome de tout le péché. Tous les démons seront liés et précipités dans l'étang de feu. Dans ce feu dévorant, le feu de la colère de Dieu. Aucune bête sauvage ne sera là pour vous détruire. Quand vous vous promènerez parmi les jardins fleuris, il n'y aura plus de serpents qui siffleront en cherchant à vous mordre pour vous empoisonner. Oh là là, cela ne sera-t-il pas merveilleux? Écoutez, il n'y aura plus dans cette nouvelle terre le moindre tertre de gazon jauni recouvrant un tombeau. Et il n'y en aura point là-bas. L'homme et Dieu se sont rencontrés, l'époux et l'épouse. Les cieux et la terre se sont embrassés. Dieu est descendu pour habiter parmi les hommes. Son tabernacle est avec eux. Il n'y aura plus jamais de péché, plus jamais de chagrin, jamais plus. Il n'y aura plus de larmes tombant sur les joues d'une maman à cause de son bébé. Amen. Tout cela n'existera plus sur cette nouvelle terre. Non, elle sera rachetée. Elle lui appartient, ainsi qu'aux siens qui en furent rachetés. Voyez-vous, et regardez, vous êtes une partie de ce sol. N'est-il pas vrai? Quand il vous a racheté, il a racheté la terre de la même façon et vous êtes de nouveau ensemble. Oh, cela ne peut pas être plus clair. Vous devez être racheté parce que vous êtes une partie d'elle. Si le sang n'était pas tombé sur vous, vous ne seriez pas encore racheté. Vous ne seriez pas appelé. Puis il l'a purifié. Il a fait la même chose. Il fait la même chose par le feu. Mais le sang est tombé sur elle. Malgré cela, il faut qu'elle soit purifiée par le feu, c'est vrai, afin qu'elle devienne un lieu d'habitation pour Dieu. Dieu a déjà fixé sa demeure ici-bas. Potentiellement, le royaume de Dieu est maintenant sur la terre dans le cœur de ses saints. Ce sont ses attributs qu'il avait au commencement. Actuellement, ses attributs sont rachetés. Qu'attend-il? Racheter la terre pour y placer ses attributs, pour accomplir exactement son plan prédestiné. Le voyez-vous? Notez-le. Plus de tombeau, plus de larmes versées, jamais plus de sang versé. Elle ne sera jamais plus mouillée par une larme versée ou par du sang. Non, il n'y aura plus jamais de guerre. Il n'y aura plus de nuages d'hiver. Il n'y aura plus jamais de neige glacée à sa surface. Il n'y aura plus de soleil brûlant jaunissant le gazon. Alléluia. Même le désert produira des roses. Ce vieux désert piquant fleurira un jour comme une rose. Dieu l'a dit. Quand elle sera rachetée, quand elle aura reçu son baptême de feu, il y a maintenant toutes sortes de cactus et d'épineux, mais elle va recevoir un baptême de feu. Il en était de même pour l'homme. Il avait toujours de la haine, de la malice, des luttes en lui-même. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque le baptême de feu vint, il nettoya tout. Il n'y eut plus de jalousie ou quoi que ce soit d'autre. Il est devenu absolument une demeure pour Dieu. Et rappelez-vous, c'est sa délégation qui va le rencontrer dans l'au-delà. Amen.
Amen.
Oh, ce n'est pas une fable, c'est la vérité.
Amen.
C'est ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a promis, c'est là où l'épouse va. Il a dit que même le désert refleurira et qu'il deviendra comme une rose. Satan, le péché, les pécheurs ont disparu pour toujours. Tout est terminé, fondu dans l'éternité. Et tout ce qui est perverti, Satan, ce grand archange, qui un jour se trouva là et fit tout ce mal, sera détruit. Rappelez-vous que la Bible a dit que si cette âme ne veut pas agir comme il l'a dit, qu'il la détruirait. Mais voyez-vous, il ne peut se détruire lui-même et rester Dieu. Ainsi, si cette âme est du monde, elle doit être détruite. Mais si elle est éternelle avec Dieu, elle ne peut jamais être détruite, car elle n'a jamais eu de commencement étant une partie de Dieu. Amen. Comme c'est beau. Combien nous devons être reconnaissants. L'Église devrait voir cela.
Amen.
Mes amis, tout ce que vous avez fait se trouve ici même. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Je laisse de côté quelques points car je désire y revenir de nouveau. Même ces choses-là, Satan et les pécheurs ont disparu pour l'éternité. Ils ne pourront plus jamais. Voyez-vous, Satan ne peut pas créer. S'il le pouvait, il serait Dieu. Voyez-vous, il peut seulement pervertir ce qui a été créé. Toute la perversion aura été détruite. Et la mort est une perversion de la vie. S'il n'existe plus de perversion, il ne pourra plus y avoir de mort. La vieillesse est un signe de mort. Quand la vieillesse disparaît, la vie y entre. Tous les signes de perversion et autres ont disparu. Les épines et les chardons sont un signe du péché. La terre sera maudite avec eux. Et quand ils auront disparu, la maladie vient de cela. Cela disparaîtra. Il n'y aura plus de monde. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de sang versé. Plus rien ne viendra fouler ce garçon, ce gazon, si ce n'est la sainteté, les racheter.
Amen.
Oh là là. Oh, je me sens tellement bien. La création de Dieu et ses créatures qui vivent dans cette création sont rachetées par son propre sang. Elles sont purifiées par son propre procédé de purification. Sa façon propre de tuer les germes, de tuer le péché, comme lorsque quelque chose est stérilisé. La meilleure stérilisation que l'on ait jamais eue, c'est le feu. Vous pouvez prendre n'importe quoi et le laver avec de l'eau, de savon et avec tous les produits chimiques dont il parle, cela ne débarrasse pas encore de tout. Mais brûlez-le une fois, quand le saint feu de Dieu stérilisera la terre, que les produits chimiques, alors, il attire à lui son épouse, qui peut entrer au ciel avec lui, pendant que cela a lieu. Et ensuite, ils reviennent sur la terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'hiver glacial ne pourra plus lui faire de mal, pas plus que les étés brûlants. Les déserts fleuriront comme une rose. Le péché et les pécheurs ont disparu. Dieu dans ses créatures et la création habitent ensemble en parfaite harmonie. Comme les cieux et la terre sont mari et femme, ainsi en est-il de Christ et de l'épouse et de l'Église. Ils se rencontrent tous dans un grand et glorieux plan de rédemption qu'ils amènent directement et de nouveau dans le sein de Dieu. Le voyez-vous? De la nouvelle terre, il y aura une nouvelle cité. Oh là là! Maintenant, écoutez attentivement. N'oubliez pas ceci. Jésus a dit dans Jean 14 qu'il allait la préparer. Que vos cœurs ne soient pas troublés quand il s'en ira. J'ai une raison de partir. vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ils ne pouvaient pas se rendre compte qu'il était Dieu. Il leur dit, vous croyez en Dieu et maintenant croyez en moi. Je vais aller vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs palais. Christ est occupé maintenant à la construction de cette nouvelle Jérusalem.
Amen.
Et maintenant, écoutez attentivement, restez tranquille, ne manquez pas cela. Christ est aujourd'hui dans les cieux en train de préparer la nouvelle Jérusalem.
Amen.
Pareillement à Dieu qui créa la terre en six jours ou en 6000 ans. Il est écrit, ne soyez pas ignorants, nous avons lu dans les Écritures que 1000 ans sont comme un jour. Christ est parti pour préparer une place qui est en construction depuis de nombreux millénaires. Je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Amen.
Notez ceci, le Rédempteur est les rachetés. Combien j'aimerais avoir plus de temps maintenant. J'ai noté ici que Salomon a parlé de cette jeune fille, de cette épouse. Oh, je suis obligé de laisser cela de côté, car il se fait tard. Voyez-vous, j'y reviendrai. Quand il essaya de la prendre, elle était fiancée à un jeune berger. Certains crurent probablement qu'il s'agit là simplement d'une chanson. Oh non, Salomon était sur le trône qu'il avait hérité de David sur cette terre. Cela montrait que ce royaume devait disparaître. C'était un type de Christ amoureux de son épouse. Voyez-vous, remarquez que Jésus a dit dans Jean 14 qu'il allait préparer une place. Oh, à quoi ressemblera-t-elle? Oh épouse, as-tu déjà pensé à quoi elle ressemblera? Elle est préparée et conçue par le divin architecte. À quoi ressemblera cette cité? Je vais vous en parler pendant quelques minutes. Le divin architecte l'a préparée, elle l'a conçue, lui-même. Regardez avec quel amour il l'a préparée pour son épouse bien-aimée. À quoi va-t-elle ressembler? Pouvez-vous imaginer un homme qui va se marier? Avec quel soin il construit et place chaque petite chose selon ses goûts à elle?
Amen.
De même, le divin architecte a conçu une nouvelle cité dans laquelle il vivra avec son épouse, précisément selon ses goûts à elle. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre ait dit ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Essayons de voir si nous pouvons examiner cela pendant un instant pour savoir à quoi cela va ressembler. Le divin architecte a conçu ceci pour sa bien-aimée. Voyez-vous, oh, quel endroit glorieux ce doit être quand celui qui l'a conçu est une nature divine, un architecte divin, et cela en faveur d'un attribut divin, prédestiné par un Dieu divin, lequel est l'auteur de la vie divine. À quoi ressemblera cette cité? Pensez-y. Rappelez-vous qu'il ne s'agira pas du ciel. Car Jean a dit, je la vis descendre du ciel. Elle se trouvera sur la terre. Voyez-vous? Non pas sur cette terre qui va passer, mais sur une terre rachetée. Dieu n'a pas dit qu'il susciterait une nouvelle génération, mais il va racheter celle qui se trouve ici. Il ne va pas susciter une nouvelle génération, il rachète celle qui se trouve déjà ici. Il ne va pas créer un nouveau monde, ce sera celui qui est ici même. Il va simplement le brûler complètement pour le purifier, comme il a fait pour vous. Ses plans doivent demeurer toujours. Maintenant, regardez, cela sera, rappelez-vous que cela ne sera pas le ciel, mais cela descendra du ciel. Ce sera un lieu d'habitation où il viendra demeurer. Jean, dans l'île de Patmos, a eu cette vision se rapportant à Apocalypse 21, de cette cité qui descendait du ciel, telle une colombe. Voici Dieu qui descend sur son tabernacle terrestre, Jésus. Jésus fut baptisé. Quand il rencontra le prophète, la parole vient au prophète et il était la parole. Le prophète se tenait là, reniant toutes leurs dénominations. Et quand il vit la parole vint directement à lui. Le prophète fut si bouleversé qu'il dit à Jésus, « Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Jésus lui dit, « Laisse faire maintenant, car ainsi il est convenable. Nous connaissons le message d'accomplir toute justice. Je suis le sacrifice, il doit être lavé. Alors il le laissa faire. Quand il sortit de l'eau, il dit, je vis les cieux ouverts. Le prophète vit cela. Il vit les cieux ouverts et voici, l'Esprit de Dieu descendit sous la forme d'une colombe. Et une voix fit entendre ses paroles, ceci est la part de la terre que j'ai rachetée. Et de cette part de la terre, je racheterai le reste. Car Jésus est ma parole rendue manifeste. C'est par ma parole que j'ai créé le monde entier, Hébreux 11. Satan l'a détenu durant tout ce temps, mais je suis venu pour la rejeter. Une partie de la terre a fait son corps, et je viens maintenant pour y habiter. Jean a dit, j'ai vu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Où s'est-elle installée? Sur la terre, exactement comme il avait déjà fait là-bas. Jésus était une partie de cette terre. Sur lui, le Saint-Esprit descendu, n'est-il pas vrai? Il resta sur lui pour toujours. Il ne peut plus jamais le quitter. Il est toujours là. Lui et Dieu sont un.
Amen.
Cela doit toujours en être ainsi. Ainsi, Jean a vu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel comme une comète ou comme une colombe et qui se posa sur une terre entièrement rachetée.
Amen.
Et pour quoi faire? Pour réclamer chaque attribut pour lequel il fit la terre. Chaque homme et chaque femme qui était représenté dans l'éternité sont alors rachetés. Elle était nettoyée et brûlée par le feu. Jésus resta 40 jours dans le désert, assailli de tentations brûlantes. Après cela, notez-le bien, Jésus était alors prêt pour son ministère. Pensez-y, le Saint-Esprit descendant sur la terre. Jésus est ce sang saint. Maintenant, observez bien. J'espère que ceci n'est pas trop profond pour vous. Voyez-vous? Le sang saint a été créé par Dieu. Ce sang, cette vie, la création de Dieu. Jésus fut le début de la création de Dieu. Le voyez-vous? Dieu visible dans la création. Il était esprit. La Bible dit qu'il est le début de la création de Dieu. Comment a-t-il commencé? Dans le sein d'une femme. Qu'est-ce? La femme est... Comment tous ces gens aveugles ne peuvent-ils pas voir la semence du serpent ici même? Voyez-vous? Ève fut mise là sur la terre, et avant même que Satan l'ait touchée, Dieu leur avait dit, multipliez et remplissez toute la terre. C'est vrai, mais Satan se présenta alors à ce moment-là. Et si c'était le fils d'Adam, alors où? Adam, lui, était un descendant direct de Dieu. Vous-même, vous pouvez seulement prendre la nature de vos parents. Et quand vous êtes né de nouveau, vous prenez la nature de votre Père Céleste.
Amen.
Et votre parent des cieux est l'attribut de la parole, ou la parole est l'attribut de votre parent. Et comment pouvez-vous la nier, la renier pour des dénominations? J'espère que vous ne manquez pas cela. Je sais que cela vient de Dieu.
Amen.
Jésus, le voici qui descend. Il y avait Jésus, l'attribut de Dieu. Or la femme, elle, observait. Dieu dit, parce qu'ils ont fait cela, je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Cela n'est-il pas exact? Or la femme ne possède aucune semence. Y aviez-vous déjà pensé? Elle a un champ. Mais pas de semence. Voyez-vous, le serpent avait déjà placé là sa propre semence. Alors, si la femme ne possède pas de semence propre, elle doit rester pour avoir une semence. Voyez-vous, à la suite d'un rapport sexuel, il était venu de Satan le serpent. Il n'était pas un reptile. Il possédait des jambes jusqu'à ce qu'elles lui fussent enlevées. Il était le plus subtil, le seul animal qui puisse saillir la femme. Une semence animale ne peut le faire maintenant. Ils ont essayé de le faire. Cela ne marche pas, vous voyez. La semence vivante d'un mâle ne va pas dans une femme. Ça ne peut pas se faire, mais c'était la chose la plus proche. Voyez-vous, ils ne peuvent trouver cette espèce entre le chimpanzé et l'homme. Voyez-vous, chaque espèce a évolué depuis les oiseaux, en passant par les singes, jusqu'au chimpanzé. Et ensuite, il manque quelque chose. C'était le serpent, qui n'était pas un reptile. Toute la forme qu'il avait est perdue parce qu'il fut maudit. Cependant, Dieu n'a pas maudit Adam. Il aurait pu le faire, mais il maudit la terre en y plaçant des épines et des chardons. Il ne maudit pas Ève, mais il décida qu'Adam dominerait sur elle. Depuis ce moment-là, il est interdit à la femme de prêcher ou de faire ce genre de choses. Adam domine sur elle. Tous les jours de ta vie, et péniblement, et tu retourneras à la terre. Mais il a dit, je mettrai inimitié entre ta semence. Elle n'avait pas de semence, elle n'en eut jamais. Ainsi, elle dut recevoir une semence de quelque part. Dieu lui donna sa semence, non par un rapport sexuel, mais par création. Ne pouvez-vous pas voir, Jean aveugle, que c'est la semence du serpent? Oh là là! Satan y est arrivé avant Adam. C'était la semence, mais elle reçut une semence. Qu'était-elle? Dieu lui-même! Il était le commencement de la création de Dieu. Maintenant, regardez. Quand Abel fut naquit, c'était un homme juste, et cela venait de son père. Il en fut de même pour Seth. Et alors, d'où est venu cet homme mauvais, ce meurtrier, ce menteur? Voyez-vous? Voyez-vous d'où il venait? Cela devait être une semence, car il était une semence. Caïn était un homme! Oh, où sont ces gens aveugles? C'est le Dieu de ce monde qui les a aveuglés. Ce n'est pas étonnant que Jésus déclarait qu'aucun homme ne peut le voir. Voyez-vous? Vous me direz, pourquoi ne le voit-il pas? Un jour, Jésus a dit à ses disciples, il vous est donné à vous de connaître le royaume de Dieu, mais pas à eux. C'est la raison pour laquelle vous venez de 2200 kilomètres au carré. Voyez-vous, il vous est donné à vous de connaître le royaume. Regardez, il y a des amis qui viennent ici même de l'Afrique du Sud, en cette heure avancée où l'épouse est formée pour entrer dans le royaume. Je n'ai malheureusement pas assez de temps. Maintenant, observez. Pouvez-vous voir là la semence du serpent? Voyez-vous comment cela s'est fait? C'est parfait. C'est comme cet homme l'autre jour à Tucson qui essayait de... Il se peut qu'il écoute cette bande, mais s'il le fait, j'aimerais lui dire quelque chose. Lorsqu'il releva qu'Ève avait dit, c'est là qu'ils en viennent, j'ai acquis un fils ou un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais certainement, car Dieu a une loi. Regardez, si vous prenez une semence et que vous la plantiez dans un champ où il y a du blé, et ensuite que vous y semiez des chardons, peu importe, le même soleil et la même pluie amèneront cette semence à la vie. Dieu a une loi. Et cette loi ne peut pas être brisée, que ce soit la femme la plus souillée, et l'homme le plus corrompu de la ville, et que sans être mariés, ils vivent ensemble et finalement mettent au monde un enfant. Cet enfant viendra par la loi de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Si vous ne le faites pas, vous faites de Satan un créateur, et alors il est Dieu. Oh, combien aveugle pouvez-vous être? Voyez-vous, c'est la loi de Dieu, certainement. Si jamais vous avez eu un bébé qui s'appela Esaü, Jacob ou n'importe quelle personne malfamée, que ce fut Judas, il devait venir par Dieu. Dieu a une loi. La Bible dit, le soleil brille sur les justes et sur les injustes, et la pluie tombe sur les justes et sur... Il est écrit dans le 6e chapitre des Hébreux, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, vous savez, pour les faire vivre, mais les épines et les chardons vivent de la même eau et bénéficient du même soleil. Car c'est une loi de Dieu de faire mûrir chaque semence pour que chaque semence se reproduise. Ainsi en est-il de la semence du serpent. Cela n'a jamais entravé la voie de Dieu. Cela a accompli parfaitement son plan. Cela a fait de lui un rédempteur.
Amen.
N'importe quel aveugle pourrait presque voir cela, à moins que le Dieu de ce monde ne vous le cache. Cela est aussi clair que tout ce que vous pouvez voir. Vous y êtes. Voilà ce qu'est la semence du serpent. Notez bien que Jésus a été le commencement de la création de Dieu. Et maintenant, que fait une femme? Quand le germe vient du sexe masculin, maintenant niez cela. La femme n'en a point en elle, point de vie du tout. Elle ne possède qu'un petit œuf qui est comme un champ. C'est comme si vous preniez un champ et que vous le labouriez et que vous le sulfatiez pour détruire tous les germes et que rien, même pas l'herbe, ne puisse y pousser. Et ensuite vous le fertilisiez de nouveau et y plantiez de la bonne semence. Si l'ennemi vient et plante une autre semence, la même loi de Dieu fera mûrir les deux semences. Évidemment, Dieu ne désirait pas que cela se produise. Mais qu'est-il arrivé? Voyez-vous, le sperme du mâle porte l'hémoglobine, qui est le sang. Dans le sang, il y a la vie. J'ai observé cela dans l'hybridation du bétail. Des vétérinaires, des chimistes nous ont montré à faire chacarienne et à moi-même comment cela se passe. Quand le sperme de la femelle arrive, c'est un ensemble d'eux. Et si le sperme du mâle est un ensemble de germes, l'un d'eux n'a pas le moins de germes en lui. C'est seulement le sous-produit d'un homme. C'est ainsi qu'au commencement, cela arriva. Elle n'est qu'un champ. Là se trouve un œuf. Il possède un terrain fertile pour recevoir cette vie. Et cette vie avance rampant. Il y a là un grand mystère. Peut-être direz-vous, eh bien, le premier le rencontre et tous les autres meurent. Mais qui détermine cela? Eh bien, le premier sera celui qui est devant, le premier œuf qui est devant, et le premier germe. Non, non, cela peut être un œuf qui est tout au fond, et que du milieu des spermes, un germe sorte et aille à sa rencontre. Cela montre qu'il y a une intelligence qui décide si cela va être un rouquin ou un noireau, ou si cela va être un petit ou un gros, un mâle ou une femelle. Voyez-vous, vous ne pouvez rien faire d'autre à ce sujet, cela ne marchera pas. Vous pouvez les mélanger, cela ne fera aucune différence, c'est Dieu qui le détermine. Au bout d'un certain temps, un petit germe rampera dans ce champ, cet œuf. Il a sur lui une sorte de petite queue qui se tortille, et ensuite se détache pour former l'épine dorsale du bébé. Alors qu'est-elle? Elle n'a pas de semence, elle a un champ pour recevoir la semence. Ainsi la semence de l'ennemi fut jetée. Pendant que le bon semeur s'en alla répondant de la bonne semence, l'ennemi vint derrière lui répondant de la semence corrompue. Mais la pluie tombe sur les justes et sur les injustes, et le soleil, tout doit croître. Jésus a déclaré, laissez-les croître ensemble, mais en ce jour-là, l'ivraie sera liée en gerbe. Elles sont liées maintenant dans de grandes organisations qui sont en train de former une gerbe immense, le Conseil mondial des églises. Quelle sera leur fin? Elles seront brûlées, mais le grain sera amassé dans le grenier. Voyez-vous, alors qu'ils vivent de la même chose, de la même eau, de la même pluie. Un oranger qui a été greffé peut produire une grenade, il peut produire un citron, il peut produire un pamplemousse, voyez-vous. Mais cela ne sera pas une orange. Cependant, ils vivent de la même vie que produit l'oranger. Les dénominations ont été injectées dans le sceptre, car si elles disent être chrétiennes, elles vivent de cela. Vous savez qu'il était Caïphe, et cependant, il prophétisa. Voyez-vous, elles vivent de cela. Combien je voudrais pouvoir disposer d'une semaine entière pour étudier tout cela avec vous, et pour que cela devienne si clair que vous ne puissiez manquer de le voir. Maintenant, je vais laisser de côté certaines de ces choses. Observez bien. Regardez, ses mains ont conçu cela pour son épouse bien-aimée. Elles l'ont conçu avec un tendre amour pour son épouse. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, car Jésus était une partie de la terre. Pourquoi? Parce que le germe de Dieu, la vie de Dieu, fut conçue dans le sein d'une femme. N'est-il pas vrai? Lequel était la terre? Très bien. Et alors la vie de Dieu entra, et ainsi il fut le commencement de la création de Dieu. Voyez-vous? Alors ce sang de Dieu qui était là par ce germe, lorsqu'il fut versé au calvaire, retomba sur la terre. Pour quelle raison? Pour racheter la terre. Ainsi maintenant, elle était justifiée, elle était sanctifiée, elle était appelée, réclamée. Maintenant, elle doit recevoir son baptême de feu, elle doit être purifiée pour Jésus et son épouse. Amen. Et vous formez ces autres parties qui sont tirées de cette terre. Car votre corps est une partie de la terre. Votre âme est une partie de Dieu, un attribut de Dieu manifesté ici sur la terre dans un corps. Le corps doit être racheté. Maintenant l'âme est rachetée, car avant elle vivait dans le péché. Ainsi Dieu est descendu au travers de la justification, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit, et ainsi il a racheté votre âme. Vous-même faites partie de cette terre, elle est rachetée par cela. Vous êtes maintenant dans le processus, c'est en train de se produire. Votre corps fut justifié lors du baptême de Noé, amen, et votre chair, que son sang fut versé sur elle, la terre sur laquelle vous vivez va être purifiée par le feu et le baptême du Saint-Esprit, pour en faire une demeure pour Christ et son épouse dans la Nouvelle Jérusalem. Observez cette cité, elle va se fixer sur la terre. Maintenant, vous pouvez voir clairement, comme je l'ai dit, que cette terre doit être changée. Telle qu'elle est, elle ne peut pas la recevoir. Le monde ne pourrait pas continuer tel qu'il est, après le millénium, sans être changé, voyez-vous. Pour que nous puissions y occuper une telle place, le monde doit être changé. Car nous-mêmes, nous devons être transformés par son saint feu, afin de préparer une place pour que lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, puisse y habiter. Notez maintenant ceci. Il y aura beaucoup de place dans la nouvelle terre. Oui, voyez-vous, beaucoup de place. Elle aurait été rénovée par le feu, c'est vrai, mais il n'y aura aussi plus de mer. Notez que cette cité a une surface de 2200 km au carré. Suivez bien attentivement pendant que nous dessinons ces dimensions. Un instant, je veux effacer le tableau noir. Ceci est une profonde révélation venant de Dieu. Aucun des autres Je vous expliquerai la suite, Dieu voulant. Remarquez, la terre est... Si vous vous reportez au livre de l'Apocalypse, vous pourrez voir qu'il mesura 12 000 stades. Or, nous découvrons que cela représente 2200 kilomètres au carré pour la cité. Savez-vous à quoi cela équivaut? J'ai fait le calcul cette semaine. Eh bien, dans ce cas, elle s'étendrait du Maine jusqu'à la Floride, et de la côte est jusqu'à 960 kilomètres à l'ouest du Mississippi. En d'autres termes, la cité à elle seule couvrirait la moitié de la surface des États-Unis. Vous me direz, il n'y a pas assez de place. Lorsque la mer aura disparu, il y aura assez, car environ les 4/5 sont dans l'eau. N'est-il pas vrai? L'explosion asséchera la mer et la terre fera irruption. Oh là là! Souvenez-vous qu'elle aura 2200 kilomètres au carré. Quelle cité! Mais rappelez-vous que la mer a disparu et que la largeur et la hauteur sont les mêmes. Ce qui ferait 2200 kilomètres dans cette direction, 2200 kilomètres dans celle-là et 2200 kilomètres dans celle-ci, la longueur par la largeur et par la hauteur. Pensez à cela, 2200 kilomètres d'or transparent.
Amen.
Et cette ville était entourée d'un mur. Maintenant, cela ne veut pas nécessairement dire que, en étant égal, il est dit, et les murs et les fondations étaient égales. Cela ne veut pas nécessairement dire que c'est un cube ou un carré. Il existe une autre figure géométrique dont les dimensions sont les mêmes. Il s'agit de la pyramide. Elle est bâtie en carré et les murs de même. Laissez-moi vous dessiner cela sur le tableau. Voyez-vous, ici la longueur, ici la largeur, ici la hauteur. Nous allons nous trouver dans quelque chose d'aussi réel que le monde. Notez, les dimensions de tous ces angles sont exactement les mêmes, la longueur par la largeur par la hauteur. Il y a une autre mesure de la pyramide qui le prouve. Ainsi, cela répondrait exactement au signe d'Enoch en Égypte, celui de la pyramide. Le croyez-vous? Enoch, avant la destruction antédiluvienne, quand la justification arriva, produisit un signe. Dans cette pyramide, il y a 7 marches qui conduisent à la chambre du roi. Observez, sur la 7e marche, si vous êtes arrivé d'étudier les dimensions de la pyramide, ce qui s'avance pour prendre le visiteur et l'introduire auprès du roi. Observez à qui appartient le poste qui se trouve là, et vous verrez le jour dans lequel vous vivez, dans la pyramide. Dieu a fait 3 Bibles. Maintenant, il y a un enseignement de la pyramide qui est un non-sens, mais il existe une pyramide authentique. Voyez-vous, notez ceci. Maintenant, la première Bible de Dieu, il en a fait 3. Tout doit aller par 3. Jésus vient 3 fois. La première fois pour acheter son épouse, la deuxième fois pour la prendre, et la troisième fois, il vient avec son épouse. Voyez-vous? Maintenant, regardez comme c'est beau. Dans cette pyramide, il y avait 7 marches, puis venait la chambre du roi. Or, nous nous trouvons dans le 7e marche de l'église, juste avant que le roi s'installe sur son trône. Et souvenez-vous que la pyramide n'a jamais eu de pierre faîtière à son sommet. La première Bible de Dieu se trouvait dans les cieux, c'est le zodiaque. Il commence et parcourt chaque âge. Le premier signe au commencement du zodiaque est la Vierge. C'est ainsi qu'il vient premièrement. La dernière figure du zodiaque, c'est celle de Léo, le lion, la seconde venue. Juste avant celle-ci se trouvent les poissons, ce qui est l'âge du cancer dans lequel nous vivons actuellement. Il y avait une pyramide après cela, Enoch, qui témoigne exactement. Nous n'avons pas le temps d'examiner cela, mais un jour, avec l'aide de Dieu, je vous le montrerai, qui précisait la place réservée à l'heure dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Voyez-vous? Les mesures géométriques que nous avons et dont les dimensions sont les mêmes ne signifient pas nécessairement qu'il doit s'agir d'un cube. Remarquez, cela serait la réponse au signe d'Enoch en Égypte. Au cours de la purification de la terre par son baptême de feu, il y aura des éruptions volcaniques telles que cette terre explosera, ce qui poussera vers l'extérieur une montagne en forme de pyramide. Voyez-vous, il y aura beaucoup de place pour le faire. Tout sera changé, la surface entière sera changée. Le saisissez-vous? Cela poussera vers le haut une montagne en forme de pyramide, ce qui serait, si cela se passe ainsi, exactement conforme à la parole. Et cela se passera effectivement ainsi. Remarquez que dans Ésaïe 65, 25, où nous venons de lire, il est écrit, « On ne fera pas de tort et on ne détruira pas sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Oh, toute ma montagne sainte. Rappelez-vous, c'est toujours une montagne. Si les murs étaient à angle droit, on ne pourrait voir cette cité que de l'extérieur ou que de l'intérieur. Le trône, lui, ne peut être vu que de l'intérieur. Notez que cela ne serait vu que de l'intérieur. Mais maintenant, nous voyons ce qui est la promesse d'Ésaïe 4, 5. Lisons-la. Êtes-vous pressé? Non, ne soyez pas pressé maintenant, car nous sommes à une chose trop importante. Il y a beaucoup que vous devez comprendre ici même. Je veux que tout ceci soit clair pour vous. Plus tard, dans une prochaine leçon, nous y reviendrons et je vous montrerai ce qui en est. Oh, loué soit le Seigneur. Observez combien il est vrai que la parole ne peut faillir. Voyez maintenant dans Ésaïe. Je l'inscris quelque part si je peux le retrouver. Une minute. Ésaïe 4, 5. Maintenant écoutez, il parle de la venue du Seigneur et combien les femmes seraient immorales. Oh, il dit, sept femmes. Écoutez, lisons-le, regardez ici. Et sept femmes saisiront un seul homme en ce jour-là, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements. Seulement, que nous soyons appelés de ton nom, ôte notre propre. C'est là la fin des temps que nous vivons maintenant. Mariage, divorce, prostitution et quoi encore? En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire, et le fruit de la terre pour magnificence et pour ornement, pour les réchappés d'Israël. Comment vous avez échappé à cette condamnation, voyez-vous? Et le résidu en Sion et le reste de Jérusalem sera appelé saint. Quiconque sera écrit parmi les vivants dans Jérusalem, voyez-vous, quand le Seigneur aura nettoyé la saleté des filles de Sion. Rappelez-vous, il s'agit toujours de l'épouse, et aura lavé le sang de Jérusalem du milieu d'elle. Il s'agit ici du reste des Juifs plus l'épouse. Par l'esprit de jugement, le feu, c'est toujours le jugement de Dieu. Quand il rend son jugement final, il vous appelle, il vous justifie, et il vous appelle, il vous amène à la rédemption, puis son jugement tombe sur vous, et le Saint-Esprit et le feu vous purifient du péché. Après cela, vous êtes sien. Il fait la même chose pour la terre quand il la purifie par le feu et par l'esprit de consomption. Maintenant, écoutez. Êtes-vous prêts? Et l'Éternel créera sur chaque demeure de la montagne de Sion et sur ses assemblées une nuée et une fumée de jour et la splendeur d'une flamme de feu la nuit. Car sur toute la gloire, il y aura une couverture. L'Éternel, en ce jour-là, créera sur son sommet la splendeur d'une flamme de feu qui éclairera et brûlera tout au long du jour. Puis il continue et dit que ce sera un abri de repos, un refuge. Remarquez, il fera exactement ce que la Bible a annoncé, exactement cela. Si les murs sont à angle droit, vous ne pourriez pas la voir. Cela doit être incliné. Toute ma montagne sainte, il créera cette lumière sur le haut de cette montagne qui servira de couverture, de protection. Oh, nous avons chanté ce cantique. Oh, cette cité du mont Sion, en tant que pèlerin, je continue à l'aimer. Quand j'arrive à ces âges, quand j'atteins cette cité sur la colline. Voyez-vous? Notez que c'est sur le mont Sinaï, sur son sommet, que Dieu est descendu dans une colonne de feu et s'adressa à Israël. Il est descendu sur le sommet d'une montagne, le mont Sinaï. Sur le mont de la transfiguration, quand il déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le », il est descendu là, au sommet d'une montagne, dans une colonne de lumière étincelante, en présence de Pierre, Jacques et Jean. Là-haut, il était avec Moïse et Élie, dont l'un avait été enlevé et l'autre était ressuscité après sa mort. Gloire! La nouvelle cité est la nouvelle Jérusalem, la nouvelle création, la cité sur la colline, avec le trône au sommet. Le trône se trouve tout en haut, dans le sommet, et les habitants sont du haut en bas de cette montagne. Le mur qui l'entoure avait 12 fondements, et chacun avait une pierre comme le pectoral d'Aaron, qui représentait les 12 tribus d'Israël. Il y avait 4 portes placées exactement comme le temple dans le désert, comme la tente dans le désert. Notez que chacune avait un apôtre, ce qui fait 3 de chaque côté et 12 en tout. Cette muraille était haute de 144 coudées, 144 coudées qui font environ 70 mètres. En prenant chacune de ces énormes pierres de plus de 6 mètres de haut, le pectoral, cela formait cette muraille qui était autour de la cité. La cité ne repose pas sur le sommet d'un mur, parce que cela n'est pas possible pour une cité de 2200 kilomètres. Il s'agit ici, comme dans l'ancienne Jérusalem, d'un mur comportant des portes d'entrée. Vous y entriez en traversant la muraille, et dans les 2 cas, celle-ci reposait sur 12 fondements, et chacun était orné d'une pierre, soit d'émeraude, soit représentant les 12 tribus d'Israël. Au-dessus de cette porte faite d'une seule et énorme perle, se trouvait le nom d'un apôtre. Jésus n'a-t-il pas dit, « Vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël ?» Qui était assis à la porte pour juger quand ils entraient dans la cité? Oh là là! Vous y êtes! Les rois de la terre qui entreront dans la cité se présenteront devant le juge apostolique, comme Jésus l'a promis. Oh là là! Sur ce trône, sur le sommet de la montagne, à une hauteur de 2200 kilomètres, le monde entier verra la lumière du monde. Jésus, qui sera assis sur le trône au sommet du monde, au sommet de l'Église, au sommet du mont Sion, qui a une base de 2200 kilomètres au carré, la moitié de la surface des États-Unis, et qui s'élève à 2200 kilomètres de haut. Et ainsi, il pourra être vu par le monde entier. Et de haut en bas de la terre, il y aura des rachetés. Il y aura des maisons en or pur. Il y aura des avenues, des parcs, des jardins. Et la rivière de la vie sortant du trône ruissellera à travers ses gorges et sur ses terrasses. L'arbre de vie fleurira dans chaque cour et portera son fruit 12 fois l'an, un fruit différent chaque mois. Les rois de la terre viendront y apporter leur gloire. Ces feuilles serviront à la guérison des nations. Quand les rois qui vivent en paix chez eux sortiront de la ville, ils prendront une feuille de cet arbre. À l'exemple de la colombe qui, une fois la colère de Dieu apaisée, revint dans l'arche en ramenant une feuille de houx. Quand le roi se retournera chez lui, après avoir apporté sa gloire dans la chambre de l'épouse, ici dans la cité, il rapportera une feuille au roi voisin. Alors il y aura la paix pour toujours, la guérison des nations, tout est réglé. Une fois, mes frères, nous avons défendu le sang des uns des autres. Nous avons aimé, puis crié, fusillé, brouillé, et brûlé des enfants, etc. Mais maintenant, il y a la paix. La guérison, pas la guérison de la maladie, c'est terminé. La guérison des nations. Amen. Cette cité avec le trône au sommet, Apocalypse 21-23, elles n'ont pas besoin de lumière, car l'agneau, le Seigneur Dieu, en est la lumière.
Amen.
Voyez-vous, le Seigneur Dieu est cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël à travers le désert. Il est monté sur le trône dans ce royaume parfait, lorsque Jésus a remis le royaume au Père, afin que Dieu puisse être tout en tous. Jésus est assis sur son trône, ici comme notre Joseph. Alors le roi est cette lumière qui brillera au sommet du mont Sion. Et sa sainte lumière inondera la cité entière.
Amen.
Alléluia. 2200 kilomètres de hauteur, un carré de 2200 kilomètres de côté, avec les paradis de Dieu construits à travers toute cette cité, des rues, des avenues, lisez-le dans Apocalypse 21. Et voyez si cela n'est pas vrai. Ils n'ont pas besoin d'aucune lumière, car l'agneau est la lumière. On peut voir le trône au sommet, à une hauteur de 2200 kilomètres. Cela ne monte pas droit comme ceci, mais obliquement, comme la pyramide. Si c'était la moitié de la distance, alors cela ferait environ montant comme ceci, vous voyez, d'une cité à l'autre, ou plutôt d'un côté de la cité à l'autre. Je voudrais faire une remarque ici, si vous le permettez. Avez-vous fait attention à ce petit groupe qui est ici? C'est à peu près la surface que cela couvre. Voyez-vous, de la Géorgie, la Californie jusqu'au Saskatchewan, du Kansas jusqu'à la côte rocheuse du Maine, c'est que cela couvre. C'est à peu près ce qui est représenté ici, environ 2200 km au carré. Oh, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent d'une terre éloignée. Pour se réjouir avec notre roi, pour manger quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole, pour manger à sa table. Combien bénis sont ces pèlerins dans le monde? Je dois vous dire que je n'ai jamais vu des gens comme eux. Oh, contemplons son saint visage, brillant d'une lumière divine, les bénis participants de sa grâce brilleront comme des joyaux à sa couronne. Oh, Jésus revient bientôt. Alors toutes nos peines seront terminées. Oh, si notre Seigneur allait venir maintenant, cela n'ira pas long. Tout concorde parfaitement et géographiquement. Sodome, les messagers, tout se trouve exactement en place. Que cela signifie-t-il? Pensez un instant, venir à ce petit tabernacle d'une distance de 2200 km au carré, les mêmes dimensions. Pourquoi Dieu a-t-il pensé la Palestine et eu tant d'égards pour elle, alors que ce n'était qu'un tout petit pays? C'est que le temple se trouve précisément à cet endroit. C'est là que la Nouvelle Jérusalem s'élèvera. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à droite et à gauche, c'est certain, quand depuis dessous, elle poussera vers le haut. Maintenant que certains disent que cela s'entrouvrira sous l'effet d'une pression, en ce jour-là, cela exercera effectivement une poussée vers le haut quand il posera ses pieds saints sur la montagne. Notez ceci, sur son trône se trouvant à 2200 km de haut. Souvenez-vous qu'un jour Satan essaya de le tenter du haut d'une montagne. Voyez-vous, la nouvelle cité possède 12 fondements, nous venons d'en parler. Les 12 patriarches, 144 coudées formant le pectoral d'Aaron, 12 portes de perles, 12 noms de disciples, et Jésus sur le trône est la pierre fêtière,
amen,
depuis que ces saints l'ont couronné roi des rois et seigneur des seigneurs.
Amen.
Il est la pierre fêtière. Je n'ai pas mon portefeuille sur moi, mais si dans le vôtre vous avez un billet de 1 $, vous verrez qu'à une extrémité se trouve le sceau des États-Unis, c'est-à-dire son emblème représenté par l'aigle tenant des lances. Et à l'autre extrémité, la pyramide, avec à son sommet un œil qui voit tout. Voyez-vous, il ne savait pas ce qu'il faisait. Quelque chose en latin y est écrit, et vous découvrirez que cela veut dire « Ceci est le grand sceau ». Ils ignoraient ce qu'ils faisaient, de même que Caïphe ne savait pas qu'il prophétisait. Voilà le grand sceau. Il est là, voyez-vous, la cité, ce n'est pas seulement un cube comme ceci, mais cela s'incline en direction du haut, afin qu'elle puisse être vue. Sur sa montagne sainte, le Seigneur descendra en son sommet. Le voici. Voici la raison pour laquelle la pierre fêtière ne fut pas placée par Enoch. Voyez-vous, voilà pourquoi cette pierre fêtière doit venir maintenant. La montagne sera projetée vers le haut, et cela formera la montagne du Seigneur. Et sur elle habiteront les rachetés. Il y aura des avenues, de grands boulevards, des parcs, et la rivière de la vie coulera au milieu d'elle. Chaque maison sera construite avec de l'or transparent. Les rues seront faites d'or, et les arbres de la vie seront là, et porteront 12 sortes de fruits. Les rois et les hommes honorés de la terre apporteront leur honneur et leur gloire au travers des portes, et celles-ci ne seront pas fermées durant la nuit, car il n'y aura pas de nuit là-bas.
Amen.
Dans cette cité où l'agneau est la lumière, Dans cette cité où il n'y a pas de nuit, là-bas j'ai une demeure qui ne demande ni soin ni peine. Oh, je vais aller là où l'agneau est la lumière. Ne voyez-vous pas que les villes, les cités, les maisons, les habitations parlent de cela maintenant même? Toutes ces choses naturelles sont une ombre. Prenez une ombre à une certaine distance comme celle de ma main avant qu'il puisse y avoir un négatif, il doit y avoir un positif. Si vous considérez cette ombre, il semble que j'ai une douzaine de doigts, mais ensuite, lorsque vous vous rapprochez, une main apparaît distinctement, et ensuite, l'ombre disparaît dans la main. C'est pourquoi souvent les gens pensent qu'il y a 3 ou 4 dieux. Vous regardez trop loin en arrière, au début de la Réformation, voyez-vous, descendez maintenant, et vous trouverez en faisant la mise au point qu'il n'y en a qu'un, exactement. Il n'y a qu'une épouse, et non pas une douzaine de dénominations, mais une seule épouse qui est élue et prédestinée sur cette terre, composée de ceux qui peuvent reconnaître leur place dans le royaume. Regardez, sur ce trône si haut, la nouvelle cité avec ses fondements, ses 12 portes, Jésus la pierre fêtière, et les apôtres jugeant les 12 tribus. La pyramide d'Enoch ne projette aucune ombre, quel que soit le moment de la journée. Je suis allé en Égypte, à proximité des pyramides. Elle est placée de telle manière géographiquement, et les dimensions de cette grande figure géométrique sont telles, que quelle que soit la position du soleil, il n'y a jamais d'ombre autour de la pyramide. Voyez-vous comment cela se présente? Et là-bas, il n'y aura jamais de nuit. Lui, au sommet de la montagne, l'inondera de sa gloire. Sa lumière glorieuse y sera tout le temps. Il n'y aura point de nuit là-bas. Jésus est dans la pierre fêtière. Maintenant, remarquez. Ainsi les rachetés marcheront dans la lumière.
Amen.
Que nous chantons, nous marcherons dans la lumière, cette belle lumière. Il y a quelque chose en nous qui crie, passez de la mort à la vie. Il y a une attente, voyez-vous. C'est cet attribut, c'est ce que nous ressentons. En fait, c'est, êtes-vous prêts? C'est la cité qu'Abraham recherchait.
Amen.
Étant un prophète, il savait que cette cité se trouvait quelque part. C'est la Bible qui le dit. Il abandonna la cité où il vivait et s'en alla, et regardez où il s'en alla. Exactement là où elle sera. Voyez-vous, il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu, car il était un prophète. Jésus est parti pour préparer de ses mains divines une cité divine.
Amen.
Un divin architecte pour un peuple racheté divin, pour un peuple prédestiné. Il est parti pour préparer. Abraham la cherchait. Elle déclara qu'il était un pèlerin et un étranger sur cette terre, parce qu'il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Ce prophète savait qu'elle existait quelque part. Jean la vit descendre, mais Abraham pensait en ce moment-là qu'elle devait y être. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré Melchisédek, le roi de cette cité. C'est à lui qu'il donna la dîme. Ce Melchisédek n'avait ni père, ni mère. Il n'avait ni commencement de vie, ni fin de vie. Abraham le rencontra. Elles prirent la communion à l'endroit même où cette cité sera érigée.
Amen.
La sainte montagne du Seigneur sur laquelle les rachetés vivront.
Amen.
Oh là là, les aiguilles de l'horloge avancent. Nous sommes encore dans le temps, mais bientôt nous irons dans l'éternité.
Amen.
Oh montagne sainte, il y aura des rues d'or transparent, des avenues, des maisons et des parcs. Si vous voulez le lire, c'est Apocalypse 21-18. L'arbre de vie se trouvera là, produisant 12 fruits différents, un fruit différent chaque mois. Ceux qui mangeront ces fruits changeront de nourriture chaque mois. Ils seront seulement pour ceux qui auront vaincu.
Amen. Amen.
Le saviez-vous? Ce ne sera pas pour les dénominations. Vous me direz, pensez-vous réellement cela, frère Branham? Allons une minute à Apocalypse 2 pour regarder ce qu'il en est. Apocalypse 2, 7. Voyons si c'est vraiment la vérité ou non. Apocalypse 2, 7 dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit... Maintenant, rappelez-vous, il ne parle pas ici aux Juifs. Ceci est pour l'Église, les gentils. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie,
amen,
qui est au milieu du paradis de Dieu. cela est réservé aux vainqueurs seulement, à ceux qui ont vaincu la bête, sa marque, c'est-à-dire le catholicisme, le protestantisme et le dénominationalisme. Seuls les vainqueurs de la bête, de sa marque et des lettres de son nom auront droit à l'arbre de vie et d'entrer dans ses portes, car rien de souillé ne pourra jamais y entrer. Voyez-vous, pensez-y, une minute maintenant, tandis que nous allons plus loin. L'arbre de vie sera uniquement pour les vainqueurs. Les feuilles seront pour la guérison des nations, c'est-à-dire pour les rois qui vivent là et qui apportent leur honneur. Quand ils apporteront leur honneur, ils les déposeront devant le trône de Dieu, à l'exemple de chacune des 11 tribus qui apportaient la dîme à Lévi. Quand ils apporteront leur honneur dans la du pays béni, ils détacheront de l'arbre de vie une feuille de houx, ou une feuille de l'arbre de vie. Puis s'en retourneront. Il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix partout. Les feuilles sont un mémorial pour la guérison des nations. Dans le jardin d'Éden, il y avait également un arbre de vie dont Adam aurait pu manger s'il n'était pas tombé. Cet arbre de vie lui rappelait continuellement que sa jeunesse durerait toujours. Voyez-vous, il en sera de même pour les nations. Les feuilles seront pour la guérison des nations. Notez bien que cela ne concerne pas la maladie. Ce sont là les mêmes droits que Adam avait reçus, comme la feuille, comme la colombe avec la feuille de houx. Chaque roi en prendra une feuille. Notez que la rivière de la vie sera peut-être formée de nombreux ruisseaux. Maintenant, dans cette terre, je vais m'arrêter dans quelques minutes. Je vais m'arrêter. Voilà ce qui me reste comme note, environ 30 pages. Dans ma vie, je n'ai rien rencontré d'aussi désaltérant, comme je l'ai prêché l'autre soir, qu'une source dans les montagnes. Une telle découverte est une chose vivifiante quand vous êtes fatigué et assoiffé. Venant des profondeurs de la terre, où les germes ne peuvent pénétrer, à des dizaines de mètres à l'intérieur, cette eau pure et authentique vous vivifie. Nous apprécions cela. La terre a ses nombreux ruisseaux d'eau rafraîchissante. Quand vous êtes assoiffé et prêt de mourir, et que vous buvez de cette bonne eau fraîche, cela vous aide à vivre. Mais regardez d'où sort celle-ci. Elle sort du trône. C'est de là qu'elle reçoit ses propriétés vivifiantes. Elle sort de dessous le trône de Dieu, où Dieu est assis. Sur cette terre sur laquelle nous vivons actuellement, tous, chrétiens ou païens, ont construit des temples. Avez-vous déjà pensé à cela? Ils ont tous des églises, mais celle-là n'en a point. La Bible dit, il n'y avait là pas de temple, car le Seigneur Dieu et l'agneau en sont le temple. L'agneau est la lumière, le lion est le temple, l'agneau est le trône, l'agneau est la vie. C'est lui qui est ce temple. Voyez-vous, tous ces temples ont un objet qu'ils adorent, mais dans cette cité, c'est lui qui est l'objet. Il est au milieu de son peuple. Sa lumière esprit inonde la cité pyramide. Il en était de même pour Pierre et Jean sur le sommet de la montagne. Alors que la lumière couvrait le sommet de la montagne, une voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » D'Apocalypse 21, 3 à 4, « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. » Dieu a tabernaclé dans l'homme en le rachetant par ses trois processus. Maintenant, Dieu va racheter la terre pour y établir sa demeure avec ses sujets qu'il a tirés de la terre. Elle est tombée au travers du péché, mais il devait le laisser continuer. Maintenant, il a envoyé Jésus pour racheter cette terre déchue dont nous faisons partie. Il n'y a pas un seul cheveu de votre tête qui ne sera perdu. Jésus l'a dit. Il dit, « Je le ressusciterai au dernier jour. » Voyez-vous, pourquoi cela? Parce que vous êtes une partie de la terre. J'ai une petite plaisanterie à raconter au sujet de ma femme qui me disait que j'avais perdu mes cheveux. Je lui dis que je n'en avais perdu aucun. Elle me dit, alors où se trouvent-ils? Je lui répondis, là où ils étaient avant que je les aie. Ils ont toujours été une substance, et où ils se trouvent, ils m'attendent. C'est vrai, un jour j'irai vers eux. Ce vieux corps qui se ride, qui s'effronde, s'effondre et s'affaiblit, ses épaules qui s'arrondissent, ses genoux endolorisent, cet enrouement de la gorge, c'est en ordre. Vous pouvez l'ensevelir dans la mer, mais la trompette connaîtra son nom. Attendez seulement. Oui, monsieur, un de ces jours, nous allons être changés. Je fais partie de ce monde qui est racheté. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du cosmos. Vous êtes dans un ordre différent, dans un ordre racheté. Notez bien ceci. Le tabernacle de Dieu sera avec les hommes. Remarquez, les choses anciennes ont disparu. Cette chose-là a disparu. Cela signifie que le ciel est descendu pour demeurer avec l'homme. Le ciel et la terre se sont embrassés, exactement comme la colombe quand elle vint se poser sur une partie de la terre qui était Jésus. Il était fait de la poussière de la terre, l'homme. Dieu qui venait de ce petit germe de vie, par sa puissance créatrice, et la vie qui était dans ce sang remontait jusqu'à Dieu. Mais le sang tomba sur la terre pour la réclamer, à cause du sang qui venait de la cellule du germe de Caïn. Voyez-vous? Maintenant, il revient avec sa puissance créatrice, comme il le fit pour Adam lorsqu'il le créa. Et voici le second Adam. Et au travers de cette cellule brisée, là, où le péché, Caïn brisa cette cellule de sang sur le juste. Voyez-vous? Maintenant, cette cellule de sang, en tuant Abel, mais Abel était né par le sexe, tandis que Jésus ne l'était pas. Il était une création de Dieu, son commencement. Cela racheta la terre et tout le calcium, la potasse, le pétrole, la lumière cosmique dont vous êtes composé, tout cela fut racheté. Pas un seul cheveu n'aura de mal, et je le ressusciterai au dernier jour. Puis qu'est-ce qui vient? Dieu descend pour habiter sur la terre, dans son propre corps, dont son propre corps est une partie. Il a ressuscité pour notre justification, et nous sommes justifiés en croyant cela et l'acceptant. Remarquez, dans ce type-là, Jésus devient Dieu, fait homme, prédestiné à prendre sa place, pour nous racheter et pour rendre toutes ces choses possibles. Remarquez, en dehors des magnifiques murailles de cette cité, avez-vous compris ce qu'est cette cité? Voyez-vous, c'est une montagne sainte. On ne fera pas de tort et on ne détruira pas sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. La cité n'est pas un cube, c'est une montagne. Et la largeur, la longueur et la hauteur sont égales. Voyez-vous, 2200 kilomètres dans cette direction, 2200 kilomètres dans celle-là, de chaque côté 2200 kilomètres et 2200 kilomètres de haut. Ainsi, c'est une grande montagne en forme de pyramide, et la cité se trouve sur la montagne.
Amen.
Gloire! Vous y êtes! Là se trouvent les paradis de Dieu, la lumière du monde, ce royaume parfait, ce n'est pas le septième jour, c'est celui qui est éternel. Voyez-vous, ce n'est pas le millénium, mais la nouvelle terre. Voyez-vous? Pendant cette période du millénium, elle passe au travers de son processus de sanctification. Elle doit encore être brûlée. Voyez-vous, le sang racheta le peuple, c'est là un mémorial. L'épouse entrera dans le millénium, mais ensuite, la terre doit être purifiée par le feu, exactement comme vous l'avez été en tant que ses délégués pour cette cité, sa délégation. Ainsi, que vous mouriez ou que vous viviez, quelle différence cela fait-il? S'il vient aujourd'hui ou dans 100 ans, voire 1000 ans, je reposerai seulement jusqu'à ce que mon changement survienne. Ainsi, vous, hommes et femmes qui êtes âgés, ne soyez pas découragés. Si là-haut vous êtes une représentation dans cet attribut de Dieu, il est Dieu. Si vous êtes représenté ici, vous ne pouvez pas, vous êtes dans ce qui est éternel. Si vous passez de ce septième jour dans le huitième, étant entré dans ce qui est éternel par le baptême du Saint-Esprit, vous êtes inclus dans ceci. Mais si vous vous confiez dans une sensation comme sauter de haut en bas, disant « Je fais ceci, j'observe le septième jour, je ne mange pas de viande » et des choses comme cela, cela périra de toute façon. Mais ceci est ce qui est éternel. C'est ce qui est éternel, c'est la fête après la fête des tabernacles. Voyez-vous, la fête des tabernacles était la dernière fête, la septième fête. Maintenant, dans le septième âge de l'Église, nous adorons sous la fête des tabernacles. Dans le millénium, nous serons dans le septième jour, encore dans la fête des tabernacles. Mais alors, après le septième jour, nous aurons une sainte convocation. Nous retournerons dans ce qui est éternel. Comment ? Par celui qui est éternel et qui est venu, qui nous a rachetés et nous a repris. Nous faisons reconnaître ainsi que nous étions une partie de ceci. Comment savez-vous que vous êtes une partie ? À cause de la parole de l'heure, la promesse du jour, de quoi s'agit-il ? D'une restauration, d'un retour au premier jour. Il ramènera le cœur des enfants à leur père, apportant de nouveau une restauration à l'antique Pentecôte, et non des sensations. Il manifestera la lumière du soir, le même soleil qui brillait dans la lumière du matin. C'est la promesse pour ce jour. Amen. Amen. Où en sommes-nous, mes amis? Où en sommes-nous? Nous attendons simplement d'être enlevés pour qu'Apocalypse 11 puisse être révélé aux Juifs. C'est vrai, l'enlèvement va avoir lieu. Observez, en dehors des portes de la muraille, sur toute l'étendue de la nouvelle terre, les nations demeureront dans une paix éternelle. Maintenant, observez bien, les rois honorés apporteront leur gloire dans cette cité. Aucun péché ne pourra plus exister dans ce lieu-là. Aucune femme aux cheveux coupés n'entrera dans cette cité, je vous le garantis. Il n'y aura plus de personnes portant des shorts ou fumant la cigarette. Il n'y aura plus d'impudiques, il n'y aura plus de prostituées, de menteurs, d'idolâtres qui entreront dans cette cité. Non, tout cela n'existera plus. Le péché aura disparu, rien de ce qui pourrait souiller cette cité sainte n'entrera là. C'est ce qu'il a dit, cela a disparu pour toujours. Regardez! En dehors, dans ses champs, et autour de ses portes, l'ours sera doux, et le loup sera apprivoisé. Le lion reposera auprès de l'agneau, et les bêtes sauvages seront conduites par un enfant. Je serai changé en une autre créature. De ce corps mortel dans lequel la mort agit et la vieillesse se fait sentir, je serai changé. Vous avez entendu ce cantique? L'ours sera doux. Et le loup sera apprivoisé. Il ne sautera plus sur vous pour essayer de vous tuer. Il marchera avec vous le long du chemin. Qui va hériter cela? Les rachetés.
Amen.
Qui sera-ce? Maintenant, en ce moment? Voyez-vous, je ne peux vous enseigner que par ces types. Remarquez, frère Lee. Qui sortit sur la nouvelle terre avec Noé, le prophète? Ceux qui étaient entrés avec lui dans l'arche. N'est-il pas vrai? Ce sont eux qui marchèrent sur elle. Voyez-vous? Ceux qui entrèrent par le message de Noé furent ceux qui marchèrent sur la nouvelle terre après son baptême d'eau. Celui qui entre avec Jésus maintenant, comment parvenez-vous en lui? Dans un seul esprit, et il est la parole. Vous devenez une partie de lui. Quelle partie de lui êtes-vous? La parole vivante de cette heure que vous avez reconnue. Vous marcherez avec lui dans le millénium. C'est quand il sortira. Notez qu'il ne s'agira pas d'une nouvelle génération, mais d'une transplantation. Vous me direz, « Oh, frère Branham !» Notez que si Dieu a pu enlever Élie il y a 2500 ans, en vue de le transplanter un jour sur la terre comme prophète pour les Juifs, combien à plus forte raison peut-il le faire pour l'épouse? Après que Noé fut sorti de l'arche, remarquez ce qui lui était dit. Après le déluge, comme il en fut pour Adam, après être arrivé sur la terre, Dieu leur dit, « Multipliez et remplissez la terre. » De même, après le déluge, notez bien, c'était aussi de multiplier et de remplir la terre, comme Adam au début. Maintenant, vous pouvez voir ici exactement, maintenant écoutez attentivement, Adam devait multiplier et remplir la terre. Est-ce vrai?
Amen.
Noé, après que le monde fut détruit, devait multiplier et remplir la terre. Comprenez-vous? Maintenant, ne voyez-vous pas ce qu'est la semence du serpent? Qu'est-ce qui remplit la terre? L'avez-vous saisi? Très bien. Vous voyez maintenant comment Satan arriva jusqu'à Ève. Voilà pourquoi la mort a régné sur la terre depuis ce moment. Les cieux, la terre, les bêtes, l'atmosphère sont tous maudits par Dieu à cause de cela. C'est la malédiction, parce que Satan arriva le premier. Jésus vint pour la racheter et la rendre au Père. C'est pourquoi il devint une partie d'elle, comme je viens de le dire, afin que cette poussière même, dont Jésus était une partie, une fois rachetée au travers de lui, tous les attributs de Dieu fussent rachetés avec la terre. Il était la parole parlée. Nous qui sommes rachetés, nous faisons partie de lui. Alors, si vous pouvez reconnaître, voyez-vous, les pharisiens prétendaient l'être, mais vous avez vu ma première illustration. Ils étaient seulement cela, au point de vue intellectuel. Mais ils ne purent reconnaître la parole quand elle fut manifestée directement devant eux. Ils disaient, cet homme a un mauvais esprit. Aujourd'hui, on nous traite de faux prophètes. On nous qualifie de toutes sortes de noms. Et cela par des gens religieux, voire par des hommes de talent. Mais voyez-vous, ils ne comprennent tout simplement pas. Son baptême d'eau ne fut pas suffisant pour la purifier, pas plus que le leur. La sanctification par le sang la ramena et la réclama pour lui. Mais le baptême de feu la purifiera, comme ce fut le cas pour son épouse, à la suite de la justification, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais promis de susciter une nouvelle race, comme je l'ai dit, mais il a promis de racheter ceux qui étaient tombés. Ceux qui étaient prédestinés l'hériteront, comme il l'a promis. Il est le Dieu qui ne change pas, nous savons cela. Rappelez-vous, Dieu prit Élie après l'enlèvement pour le transplanter un jour parmi son peuple en tant que prophète. Très bientôt, il fera cela. Il l'a gardé vivant durant 2500 ans. Et celui-ci va apparaître de nouveau. Notez également qu'il ressuscita Moïse d'entre les morts. Où se trouve son tombeau? Quelqu'un peut-il le trouver? Lisez le livre de Jude. Voyez-vous, l'archange qui contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse lui dit « Que le Seigneur te réprime. » Sur le mont de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean se trouvant là virent Moïse à l'emplacement même où le pays, dans le pays où la montagne doit surgir, pour ensuite y habiter. Voyez-vous, il est venu pour la racheter. Voyez-vous, il y avait là l'église enlevée qui était représentée, et également ceux qui étaient endormis. Où donc était-il? Dans la cité, sur le sommet de la montagne. Voyez-vous, il y avait Pierre, Jacques et Jean qui regardaient. Trois, un témoignage. Il y avait là Élie, Moïse et Jésus comme témoignage céleste. Voyez-vous, il y avait là Moïse, le mort qui avait été ressuscité. Il y avait Élie, l'enlèvement, qui était toujours vivant. Les deux étaient représentés sur cette sainte montagne. Et Jésus, le Rédempteur, avec Dieu au-dessus de lui comme ceci, le couvrant de son ombre et disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Rappelez-vous, environ un jour avant cela, Jésus avait dit, « En vérité, je vous le dis, de ceux qui sont ici présents, quelques-uns ne goûteront point à la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Qu'était-ce? Les morts ressuscités et les saints enlevés, tous ensemble, pris ensemble pour le rencontrer dans les airs avec Dieu, le couvrant de son ombre et disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, l'ordre du nouveau royaume. » Oh, mes frères et mes sœurs, la mort ne vous change pas. La mort ne fait que changer votre demeure. Voyez-vous, rappelez-vous, Samuel, il était mort et il y avait 2 ans qu'il avait été enseveli. Il était dans le paradis. Quand la sorcière d'Endor l'appela, Saül le reconnut, et elle aussi, et elle tomba sur sa face. Et il n'avait pas du tout changé. Il était toujours le même Samuel, bien qu'il fût mort depuis 2 ans, elle était toujours prophète. Il dit, « Demain, vous tomberez, ton fils et toi, dans le combat, et vers 7 heures, demain soir, vous serez avec moi. » C'est exactement ce qui arriva. Voyez-vous, et lorsque Moïse et Élie retourneront pour accomplir Apocalypse 11, ils seront toujours prophètes.
Amen.
Alléluia. Et tout là-bas, dans le pays, dans la cité où l'agneau est la lumière, je vous reconnaîtrai, frère Mackinney. Et je vous reconnaîtrai tous, mon peuple, qui êtes les joyaux de ma couronne, quand ils viendront de l'est et de l'ouest vers la cité de 2200 kilomètres au carré. Elle se trouvera dans la cité bâtie en carré. Alors il sera là sur la montagne sainte, Dieu se trouvant au sommet de celle-ci et Jésus sur le trône. Quand Joseph le quittera pour marcher à travers le paradis, alors la trompette d'or sonnera, et les enfants de Dieu tomberont sur leurs genoux et l'adoreront, sachant qu'ils ont été rachetés. Amen. Alléluia. Ma foi, j'ai la nostalgie. Et de la gloire que je verrai là-bas, quelle joie ce sera quand je verrai mon Sauveur dans cette belle cité d'or. Je suis destiné à cette belle cité d'or que le Seigneur a préparée. Esaïe a dit dans Esaïe 9:6, à l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Le gouvernement sera sur son épaule et on l'appellera conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Le gouvernement sera sur son épaule et à l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Même les animaux y seront. Oh là là! L'ours sera doux, et le loup sera apprivoisé, le lion reposera auprès de l'agneau, et les bêtes sauvages seront conduites par un enfant. Mais je vais être changé, je serai changé en une autre créature. Quand ce jour arrivera, je me dirige vers cette cité. Je suis destiné à cette belle cité. En ce moment, je ressens la puissance rédemptrice dans mon cœur tout entier. S'il n'en était pas ainsi, alors j'aurais gaspillé ma vie. J'aurais enseigné aux autres des choses fausses. Mais quand j'abaisse mes regards et que je vois la promesse faite pour ce jour confirmée, alors je peux voir aussi cette assemblée venant de 2200 kilomètres au carré, assise là, formée d'élus appelés hors des dénominations, des races et des credos. Quand je vois que la parole s'est confirmée elle-même, alors je sais sans l'ombre d'un doute qu'en ce jour-là, les joyaux de ma couronne surpasseront en éclat tout ce qu'il y a dans le monde. Il viendra un temps, mes amis, nous ne sommes pas réunis ici en vain, nous attendons seulement ce moment-là. Il est très, très tard, mais Jésus est toujours très, très près.
Amen.
Et sa gloire, oh, combien c'est merveilleux, on l'appellera conseiller. Cette cité, pouvez-vous la voir? C'est en ce lieu que l'épouse et l'époux vont demeurer pour toujours. Maintenant, si vous pensez qu'il est merveilleux, après avoir conduit pendant des centaines de kilomètres, de s'asseoir ici et de se nourrir de sa parole, ce qui n'est qu'une ombre, que sera-ce quand nous vivrons avec lui dans cette cité? Quand je serai votre voisin, que nous mangerons ensemble les fruits de ces arbres, et que nous marcherons dans ces rues d'or, les remontant pour aller boire à la fontaine. Nous marcherons dans les paradis de Dieu, tandis que les anges planeront sur la terre et chantant des hymnes. Oh, quel jour ce sera! Cela en vaut la peine. La route paraît rude et parfois cela devient pénible. Mais oh, ce sera si peu de choses quand je le verrai. Si peu, que seront les vilains noms et les choses qu'ils ont dit? Qu'en sera-t-il de cela quand je le verrai dans cette belle, si belle cité de Dieu? Inclinons nos têtes.
I'm bound for that beautiful city.
Je suis destiné à cette belle cité que mon Seigneur a préparée pour les siens, où tous les rachetés de tous les âges chanteront gloire autour du trône blanc. Parfois, j'ai la nostalgie du ciel. Et de sa gloire que je verrai là-bas. Quelle joie ce sera quand je verrai mon Sauveur dans cette belle cité d'or sur l'île de Patmos, Jean Lavie. Cher Jésus, mon espérance est fondée sur rien de moins, Seigneur, que sur cette cité qui est la mère de mon cœur, le grand roi. Oh Dieu, ne laisse pas un seul ici périr, je t'en prie. Puissions examiner à nouveau nos vies aujourd'hui, Seigneur, en attendant ta venue, là où tout s'est racheté. Là-bas, dans ce grand colisée de Rome, où tant de chrétiens furent mangés par les lions, la poussière un jour se transformera. Il n'y aura pas de cimetière sur les pentes des collines de la gloire, il n'y aura pas de couronne mortuaire accrochée à la poignée d'une porte, aucune larme ne tombera sur elle, non, non. Il n'y aura pas de tertre gazonné recouvrant. Aucune tempête ne la frappera. Tout sera glorieux là-bas. Aide-nous, Seigneur. S'il y a ici une personne appelée à ce souper de noces de l'agneau, à ce règne du millénium, pour ensuite entrer dans la cité, après que la lune de miel sera terminée, le millénium est tout simplement la lune de miel, ensuite l'époux emmènera son épouse à la maison. C'est son époux à elle. C'est son épouse à lui. Oh, il est allé préparer une maison depuis qu'il est fiancé. Puissions-nous lui être fidèles, lui qui est la parole, car il est la parole. Peu importe comment les autres essaient de nous ridiculiser, tiens-nous éloignés de cela, Seigneur. Attire-moi plus près de toi. Car parfois j'ai la nostalgie du ciel et de sa gloire que je verrai là-bas. Quelle joie ce sera quand je verrai mon Sauveur dans cette belle cité d'or. La future demeure de l'époux et de l'épouse. Il va revenir. Et ensuite, il y aura le souper des noces, qui sera de 3 jours et demi. Ensuite, nous reviendrons pour le millénium, afin d'y passer notre lune de miel. Puis, il lui fera voir la cité, comme l'époux qui emmène son épouse vers sa surprise. Regardez la petite épouse qui se tient là, ébahie à la vue de sa demeure future. Et aujourd'hui, Seigneur, par la foi, nous la voyons tout là-bas. Elle se trouvera ici même, sur cette terre, tu l'as promis. Ton église, un de ces jours, sera complètement rachetée. Alors ton monde sera racheté, le reste des particules. Mais d'abord, tu as racheté ton peuple et leurs corps qui sont formés de la terre. Aide-nous, oh Dieu, s'il y a ici une personne qui n'en est pas tout à fait sûre, Seigneur, qu'elle le reçoive maintenant. Je sais que cela a été long et qu'il fait chaud, mais mes amis, nous ne serons pas toujours debout ici. Je ne serai pas toujours votre pasteur. Soyons sûrs de cela. Y a-t-il un moyen, frère Branham? Oui. Devenez une partie de la parole. Une partie de la parole de ce jour. Vous ne pouvez pas faire partie de la parole du jour de Moïse. Cette partie a déjà été formée. C'était les pieds. Maintenant, nous sommes à la tête. C'est Christ. Il ne s'agit pas des bras du temps de Luther. Non, il s'agit du temps de la tête. Christ, la pierre faîtière, rejoint le corps. Si vous ne vous sentez pas tout à fait en ordre, où que vous soyez, voulez-vous lever la main afin que je puisse vous voir, que tous les autres gardent leur tête inclinée? Que Dieu vous bénisse. Dites, rappelez-vous de moi dans vos prières, frère Branham. Je désire tellement y être. Je ne veux pas le manquer, frère Branham. Je m'examine. Je fais tout ce que je peux. Mais priez pour moi maintenant. Voulez-vous que Dieu vous bénisse? Pendant que vous pensez à cela, priez simplement. Dites, Dieu, cela se trouve dans votre propre cœur, voyez-vous? Si vous sentez quelque chose qui vous tire fort, qui picote dans votre cœur, alors c'est cela, c'est cet attribut qui essaie de se déclarer lui-même. Je suis destiné à cette belle cité que mon Seigneur a préparée pour les siens. Où tous les rachetés de tous les âges chanteront gloire autour du trône blanc. Parfois, j'ai la nostalgie du ciel et de la gloire que je verrai là-bas. Quelle joie ce sera quand je verrai mon Sauveur dans cette belle cité d'or. Père Céleste, prends-nous maintenant, Seigneur, que le grand berger rédempteur, le grand berger qui quitta la gloire, sachant que certains de ses attributs étaient perdus dans les grandes vallées du péché, où les loups et les animaux étaient sur le point de dévorer cette petite brebis. Mais il quitta les couloirs d'or pour descendre sur la terre et devint l'un de nous afin de pouvoir nous déclarer l'amour de Dieu. Là, il les trouva, certains d'entre eux dans les dénominations, d'autres dans une maison de mauvaise réputation, d'autres dans les rues, aveuglés, et d'autres le long des haies et sur les chemins. Mais il racheta chacun de ceux que le Père lui avait ordonné de racheter, et nous commissionna de vivre cette partie de la parole pour notre âge. Nous avons vu la grande réformation de Luther dans cet âge-là, et de Wesley, et des pentecôtistes. Maintenant, nous attendons la pierre fêtière de la cité. Ô Dieu, nous connaissons l'âge et la promesse qui nous a été donnée pour ce jour, et nous savons comment tout ceci doit être restauré de nouveau. La lumière du soir en mûrira le fruit. Puis il viendra un jour qui ne peut être appelé ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ce même et glorieux Fils de Dieu s'est manifesté lui-même sur la terre dans une chair humaine, accomplissant exactement la promesse. Les yeux des pharisiens, des sadducéens et des hérodiens et de tous les autres étaient aveuglés, et de nos jours, cela se répète de nouveau. La parole étant manifestée comme elle le fut. La parole connaît les secrets du cœur exactement comme avant. L'Écriture le dit et cela ne peut être altéré. Aide-nous, Dieu, à le réaliser. Aide ceux qui maintenant ont levé la main, qu'ils bouclent leur ceinture en le serrant davantage, qu'ils chaussent à leurs pieds l'évangile de la paix, qu'ils revêtent l'armure complète de Dieu, qu'ils se coiffent du casque, qu'ils prennent le bouclier de la foi, qu'à compter de ce jour, ils aillent de l'avant. Accorde-le, Seigneur. Encore juste un peu de temps et nous serons appelés, puis l'enlèvement aura lieu. Il n'y aura qu'un tout petit groupe, comme Enoch, qui sera enlevé. Alors le reste de la semence de la femme, qui aura gardé les commandements de Dieu, les Juifs, et ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, les gentils, seront pourchassés comme des chiens, et ils donneront leur vie comme témoignage. Alors, un grand matin, à l'aube du millénium, la lune de miel commencera, et le reste des morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Alors à la fin des 1000 ans, viendra le jugement, montrant que Cam se trouvait dans l'arche. Cam est toujours là dans le reste. Ceux qui l'ont entendu et qui l'ont rejeté seront jugés. Maintenant, accorde le Seigneur que nous ne nous trouvions pas au milieu d'eux, mais que nous soyons inclus dans l'appel pour le souper des noces, car nous reconnaissons vraiment que Jésus-Christ est au milieu de nous aujourd'hui. Nous y entrons avec lui, nous sortons du monde pour entrer avec lui. Allons de l'avant vers cette cité. Sortez avec lui. Seigneur, je me fais vieux. Je n'ai plus beaucoup de sermons à prêcher. Certainement, je mets toute ma confiance en toi. J'attends cette cité comme mon père Abraham le fit. Il y a quelque chose en moi qui me dit qu'elle vient. Je m'efforce partout où je vais, Seigneur, de répandre la lumière, car ne permets pas, Seigneur, que l'un de ceux-ci, combien merveilleusement tu m'as révélé cela il y a quelques instants, d'une superficie d'environ 2200 km², des gens viennent, les uns d'ici, les autres de là, et sont assis ensemble aujourd'hui. Ils sont rassemblés dans un tout petit endroit, attendant l'apparition de cette cité. Nous déclarons que nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous sommes des proscrits, les païens, le monde crie et se moque de nous, les dénominations religieuses nous ridiculisent, mais nous ne nous laissons pas affecter par de telles choses, Seigneur. Fais de nous une partie de la parole, une partie inébranlable. Dans les derniers jours, cela se passera ainsi. Puissions-nous en faire partie, Seigneur, puissions-nous être l'un de ceux-là. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Le croyez-vous? Levons nos mains comme ceci.
I'm bound for that beautiful city. My Lord has prepared for his own. For all the redeemed of all ages will sing glory around the light of the sun. And glories are there shall be heard. Oh, what a joy that will be when my Savior I see in that
maintenant, si nous sommes appelés à habiter ensemble dans cette cité, serrez-vous simplement la main les uns les autres en disant que Dieu vous bénisse, pèlerin. D'où venez-vous? De la Louisiane, de la Géorgie, du Mississippi. Moi aussi, je suis un pèlerin. J'attends cette cité.
And its glories are there shall be home. Oh, what a joy that will be. Oh, when my Savior I see in that beautiful city of gold. Oh, the bear.
L'ours sera doux et le loup sera apprivoisé. Le lion reposera auprès de l'agneau. Oh oui. Et les bêtes sauvages seront conduites par un enfant. Et je serai changé en une autre créature. Oh oui. Oh, il y aura la paix dans la vallée pour moi un jour. Oh, il y aura la paix dans la vallée. Oh, Seigneur, je prie. Il n'y aura ni peine, ni tristesse, Je n'aurai plus d'ennui. Et il y aura la paix dans la vallée pour moi. Notre roi invisible ce matin sera alors manifesté. Je ne verrai plus Bildad, âgé de 90 ans. Vous ne me regarderez plus comme ayant 50 ans. Ce jour-là, je serai changé. Ne serez-vous pas heureux de cela? Les cheveux gris auront disparu, ainsi que les épaules tombantes. Mais la beauté immortelle se tiendra dans sa ressemblance, qui surpasse le soleil en éclats. Oh, combien ce sera merveilleux!
No more trouble, I'll see, and there will be peace in the valley for me. Amen. That's what we're here for.
C'est pour cela que nous sommes ici. Combien parmi vous ont besoin de force pour le voyage? Que Dieu nous l'accorde. Combien parmi vous sont malades dans leur corps? De soldats blessés, une douzaine ou plus. Croyez-vous qu'il est ici le roi invisible? Les choses invisibles sont rendues manifestes par celles qui sont visibles. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seulement le corps physique. Maintenant, si c'est ton esprit qui a prêché cela à travers de moi, alors il fera les mêmes œuvres qu'il fit lorsqu'il était sur la terre. Oh, comme cela est merveilleux!
I am bound for the promised.
Je suis destiné à la terre promise.
I am bound for the promised.
Je suis destiné à la terre promise. Oh, qui viendra et ira avec moi? Je suis destiné à la terre promise. Sur toutes ces larges plaines brille un jour éternel. Là-bas, Dieu le Fils règne pour toujours et il disperse la nuit au loin. Il y avait là-bas 500 personnes qui marchaient dans l'eau de la rivière. Le premier jour, l'ange du Seigneur est apparu, afin de confirmer, comme il le fit sur le mont Sinaï, que je l'avais rencontré. Je marchais dans la rivière, alors que des centaines de personnes chantaient le même cantique pour le baptême. Et voici qu'il est venu de cette même colonne de feu, dont vous pouvez voir la photographie, ici. Il est descendu juste là, à la rivière. Et il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder et annoncer sa première venue, ton message précédera et annoncera sa seconde venue. Oh, qui viendra et ira avec moi? Je suis destiné à la terre promise. Cette même colonne de feu est ici avec nous. En avez-vous conscience? Il a appelé certains d'entre nous pour une chose et d'autres pour une autre. Si vous croyez sans l'ombre d'un doute qu'il est ici au milieu de ce bâtiment, je crois qu'il se manifestera à vous. Cela vous satisfera-t-il? Si je ne parviens pas à prendre tout le monde, cela va être 14 heures, ou plutôt un peu après 13 heures. Si vous croyez, alors laissez-le descendre sur vous. Où est notre foi? Vous devez croire cela. Ne doutez point, cela va marcher. Je reconnais la divine présence de la personne de Christ, qui est la parole. La Bible dit que la parole est plus pénétrante qu'aucune épée à double tranchant, atteignant jusqu'à la division des moelles, elle discerne les pensées du cœur, révélant les secrets du cœur. Regardez, je ne connaissais pas ces choses il y a quelques années. J'en ai parlé, ne sachant rien à ce sujet. Regardez ce qu'il a fait. Il dit, maintenant tu prendras la main des gens et ne pense à rien. Dis seulement ce que les attributs ont dit. Tu diras, c'est une tumeur ou quoi que ce soit d'autre. Il dit ensuite, il arrivera un moment où tu n'auras plus à faire ceci. Cela discernera la chose même qui se trouve en eux. Nous avons eu toutes sortes d'imitations, nous savons cela. Jusqu'à séduire les élus si c'était possible. Observez comment le reste concorde avec la parole, alors vous saurez si c'est juste ou non. Mais toujours Jésus reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Combien y en a-t-il ici qui sont malades et qui savent que je ne les connais pas, qu'ils lèvent leurs mains, qui puissent dire « Je sais que vous ne me connaissez pas ». Oh, je crois qu'il y en a partout. La seule chose que vous devez faire, c'est simplement de croire. Crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Jésus a dit, comme il en fut au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il quand le Fils de l'homme sera révélé sur la terre dans les derniers jours. Quand le Fils de l'homme sera révélé ou se révélera lui-même dans les derniers jours. Non pas dans les premiers jours, non pas dans les jours intermédiaires, mais dans les derniers jours. Il se révélera. Et actuellement, nous sommes dans les derniers jours. Sodome est représenté exactement, les messagers et toutes les autres choses aussi. Qu'arriva-t-il au petit reste, au groupe d'Abraham appelé à sortir? Il y en eut un qui vint au milieu d'eux dans une chair humaine, représenté dans une chair humaine, qui mangea et but avec eux. Il mangea la même nourriture qu'eux. Il se tint au milieu d'eux et leur apporta le message. Puis il dit, « Je vais accomplir cette grande chose. » Abraham continua à réfléchir. « Est-ce là? J'ai cherché une cité. Est-ce le roi? » Il dit, « Pourquoi Sarah doute-t-elle de cela? Elle se trouvait dans la tente derrière lui. » Abraham dit alors, « Seigneur Dieu, Elohim! » Car il avait discerné les pensées de Sarah. Jésus a dit que cela se répéterait dans les derniers jours, lorsqu'il serait révélé et que la pierre faîtière viendrait rejoindre le corps pour racheter et prendre les siens. Et maintenant, il est ici avec nous. Maintenant, il y a seulement environ une douzaine de mains qui se sont levées. Je crois que Dieu peut guérir chacun de vous. Je crois que vous l'êtes. Je ne crois pas qu'en cet instant et dans une telle atmosphère qu'une personne assise ici ne puisse ressentir et reconnaître quelque chose. Maintenant, je désire que vous priez. Je désire que vous pensiez dans votre cœur à ce qui ne va pas en vous. Voyez-vous? Et alors, commencez à prier. Dites, Seigneur Jésus, révèle ceci. Je te parle de ce qui ne va pas en moi. Maintenant, envoie ton Saint-Esprit à Frère Branham pour accomplir ce qu'il a dit être la vérité dans ce message dont il nous a entretenu aujourd'hui et qui te concerne. Je sais que ce sera la vérité. Maintenant, révèle-toi à moi, Seigneur. Parle-moi. Ils sont quelque peu éparpillés ici tout autour. Ainsi, priez et croyez tout simplement de tout votre cœur que Dieu l'accordera. Maintenant, je désire que vous me regardiez et que vous priez comme Pierre et Jean qui déclarèrent, regarde-nous. Il désirait quelque chose et il était prêt à le recevoir. Vous désirez quelque chose et je crois que vous êtes prêt à le recevoir. Il dit, regarde-nous. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. La guérison, je n'en ai pas. C'est tout en Christ. Mais ce que j'ai, un don de Dieu, je te le donne. La foi pour croire en lui. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que chacun de vous soit guéri. Croyez-le. Si tu peux croire. Cette dame assise là qui me regarde pleurait il y a quelques minutes, elle priait. Elle a une affection de la thyroïde et cela la tourmente. Je ne vous connais pas, vous m'êtes étrangère. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes de Chicago. Madame Alexander, si c'est juste, agitez votre main. Maintenant, retournez à Chicago et soyez en bonne santé. Qu'a-t-elle touché? La même chose que cette femme qui avait une perte de sang. Le bord de son vêtement, pas du mien. Voici là-bas une petite dame parmi l'assistance. Si je pouvais faire qu'elle me comprenne. Vous qui avez relevé la tête et regardé de ce côté, je ne vous connais pas, vous m'êtes étrangère, mais vous souffrez de maux d'estomac. Votre mari est assis près de vous. Il a quelque chose qui ne va pas avec son oreille. Votre nom est Zap. Vous m'êtes étranger. Vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes du Michigan. Si c'est juste, agitez votre main. Retournez dans le Michigan, bonne santé. Votre foi vous a guéri. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. Cette petite dame habillée de blanc avec une maladie de la gorge, assise là tout au bout et qui venait de Géorgie. Retournez en Géorgie en bonne santé. Jésus-Christ vous guérit. Le croyez-vous? Cette dame qui me regarde et qui se trouve assise tout au bout de cette rangée, elle souffre des sinus. Si elle croit, Dieu la guérira. Madame Brown, croyez de tout votre cœur, Jésus-Christ vous guérira. Vous m'êtes étrangère, mais lui vous connaît. Le croyez-vous? Levez votre main. C'est vrai. Ici, allongée sur cette civière, dites-lui de regarder ici. Elle souffre depuis longtemps. Si je pouvais la guérir, je le ferais, monsieur. Je ne peux pas la guérir. Elle n'est pas d'ici, elle vient de très loin. Vous venez du Missouri. Vos troubles sont internes. Mais si vous croyez de tout votre cœur et si vous ne doutez pas, Jésus-Christ peut vous guérir et vous pourrez retourner au Missouri en bonne santé et donner votre témoignage. Le croyez-vous? Alors acceptez-le et prenez votre civière, allez-vous-en. Allez chez vous. Jésus-Christ vous guérit. Croyez-vous? C'est l'identification de la présence du Roi éternel. Le croyez-vous maintenant de tout votre cœur? Il a certainement fait un anneau tout autour de ce bâtiment. Le croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que vous êtes dans sa présence? Maintenant, croyez-vous, acceptez-vous que vous êtes l'un de la délégation destinée au royaume? Levez la main. Jésus a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Nous sommes l'un et l'autre. Vous êtes une partie de moi, je suis une partie de vous. Nous sommes tous une partie de Christ. Maintenant, tous ensemble, posons nos mains les uns sur les autres. La femme sur la civière s'est levée, elle se déplace. Elle retourne chez elle pour désormais être en bonne santé. Amen. Chacun de vous, vous êtes guéri si vous le croyez. Maintenant, posez vos mains l'un sur l'autre. Vous êtes cette partie de Christ. Priez pour la personne sur laquelle vous avez posé vos mains, de la façon que vous voulez. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es ici. Tu es notre roi. Tu t'identifies toi-même au milieu de nous. Nous te remercions pour ta présence. Seigneur, tu as dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, ne doutez pas. Croyez que ce que vous avez dit s'accomplira. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez savoir ce que vous avez demandé. Alors, en obéissance à ce commandement, en obéissance à la parole de Dieu qui ne peut faillir, nous, en tant que tes délégués, venons d'un carré de 2200 kilomètres, comme la cité. Nous disons à Satan, le démon vaincu, ta fin est d'être brûlé. Nous faisons partie de la délégation venant de la cité en forme de carré, de la cité où l'agneau est la lumière. Nous sommes l'attribut exprimé du Dieu Tout-Puissant, nous que Jésus-Christ a racheté par sa grâce. Satan, sors et quitte chaque personne malade qui se trouve ici, au nom de Jésus-Christ. De saintes mains ont été rachetées parce qu'ils croient à la parole. Elles sont les attributs de la pensée de Dieu. Maintenant, leurs mains sont posées les uns sur les autres. Tu ne peux les retenir plus longtemps. Sors au nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus, il est ici. Sa parole dit qu'il est ici. Votre présence et votre foi témoignent que vous êtes l'un de sa délégation. Même géographiquement, nous pouvons prouver cela. Pouvez-vous reconnaître que vous êtes des fils et des filles de Dieu rachetés? Pouvez-vous reconnaître que c'est votre demeure? C'est là que vous allez. C'est la raison pour laquelle vous venez ici. C'est pourquoi vous venez à Christ. Vous vous nourrissez de sa parole. Et si vous pouvez être béni ici, simplement par ses attributs exprimés, que sera-ce que nous viendrons à sa présence? Oh, ce sera merveilleux. Chacun de vous a le droit de guérir les malades, d'imposer les mains aux malades. Chacun de vous a le droit de baptiser. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, le baptistère est prêt. La seule façon pour vous d'y parvenir, c'est d'obéir à chaque mot. C'est vrai. Rappelez-vous qu'au commencement, c'est une petite partie de la parole qui était la cause de chaque péché sur la terre. Jésus a dit, quiconque retranchera un mot de cela ou ajoutera un mot, n'entrera pas. Son nom sera ôté du livre. Ce sera fini. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui fasse mention de quelqu'un qui a été baptisé dans l'Église autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas été baptisé ainsi, vous feriez mieux de le faire. Eh bien, direz-vous, cela ne fait aucune différence. Sans fille une pour elle. Satan lui avait dit, certainement Dieu, tu sais que Dieu, mais Dieu le fit, car il l'avait dit. Il donna à Pierre les clés du royaume, et ce qui a été lié à la Pentecôte est lié pour toujours. C'est la raison pour laquelle l'épouse apparaît dans une vision préalable une deuxième fois. Il doit y avoir une église appelée hors du dernier jour, comme il y en eut une au premier jour. Exactement. L'arbre est reparti des racines pour former l'arbre de l'épouse, comme il en fut dans ce temps-là. Le chef-d'œuvre de Dieu, comme je l'ai dit il y a deux dimanches, doit retourner de nouveau à la cité. Que Dieu vous bénisse. Je crois maintenant, Satan est vaincu, il le sait. Il est sur la terre et rôde comme un lion rugissant. Ce ne sera plus pour longtemps, il est fini. Il connaît son temps, il rôde comme un lion rugissant. Mais souvenez-vous que le prince de la paix est près de nous. Le grand être divin, l'architecte de mon être. L'architecte qui m'a construit tel que je suis, qui vous a construit tel que vous êtes, est là. C'est l'architecte qui sait comment assembler le bâtiment selon les règles. Qui le sait mieux que l'architecte? Il est ici pour le prouver lui-même. Il est ici. Maintenant, cela est basé sur votre foi. Croyez, croyez seulement.
I'm bound for that beautiful city.
Je suis destiné à cette belle cité.
We're all
que mon Seigneur a préparé pour les siens, où tous les rachetés de tous les âges chanteront gloire autour du trône blanc. Parfois j'ai la nostalgie du ciel, quand ceci sera terminé, et de la gloire que je verrai là-bas. Quelle joie ce sera quand je verrai mon Sauveur dans cette belle cité d'or. Rappelez-vous, à l'église ce soir, ils donneront la Sainte Cène. Si vous vous trouvez encore dans la ville et que vous désiriez venir ici, nous serons heureux de vous avoir. C'est un mémorial de ce qu'un de ces jours nous allons partager avec lui. Je vous aime. Je ne sais comment l'exprimer. Je pense que vous êtes le sel de la terre. Et quand j'entends parler de votre comportement dans le monde, cela me donne encore plus confiance en vous. Mais pensez que ce petit groupe, charmant comme nous le sommes, sera dispersé un de ces jours, et nous rêverons de cela. Mais s'il arrive que l'un d'entre nous meure avant que nous nous rencontrions de nouveau, alors je vous rencontrerai à l'aube, près de la rive lumineuse de la rivière. Quand toutes les peines s'en seront allées, je me tiendrai près du portail, alors que la porte s'ouvrira largement. À la fin d'un long et fatigant jour de la vie, je vous rencontrerai à l'aube, près de la rive lumineuse de la rivière. Je m'assiérai au bord de la rivière, et avec l'enlèvement, de vieilles amitiés seront renouées. Je vous verrai et vous me reconnaîtrez, et je vous reconnaîtrai. Vous me reconnaîtrez à l'aube, au sourire que j'aurai. Je vous rencontrerai à l'aube, dans la cité qui est construite en carré. L'aimez-vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Maintenant, levons-nous. Prenez le nom de Jésus avec vous. Donnez-nous l'accord, s'il vous plaît. L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux? Croyez-vous que c'est la vérité? Vous dirigez-vous dans cette direction par la grâce de Dieu? Jusqu'à ce que nous arrivions là-bas, prenez le nom de Jésus avec vous, comme un bouclier contre tous les pièges. Et lorsque les tentations vous entourent, murmurez simplement ce saint nom en prière. C'est tout ce que nous avons à faire jusqu'à ce que nous nous revoyions de nouveau. Très bien. Prenez le nom de Jésus avec vous, enfant de tristesse et de chagrin. Il vous donnera la joie et le réconfort. Prenez-le partout où vous allez. Précieux nom, oh combien il est doux, espérance de la terre et joie du ciel. Précieux nom, oh combien il est doux, espérance de la terre et joie du ciel. Maintenant, j'ai dû sauter quelques points dans mon message. Un jour, Dieu voulant, j'y reviendrai et je reprendrai ces avenues et ces choses quand nous aurons plus de temps. Vous avez manifesté parce que vous ne restiez pas assez longtemps. Nous l'avons fait aujourd'hui. Il fait chaud, mais maintenant, que Dieu vous bénisse. J'aime ce chant. Un voisin d'ici a dit l'autre soir, quand ils arrêtèrent le haut-parleur extérieur, « J'ai tellement joui du message, mais pourquoi avez-vous coupé ce joli chant ?» Voyez-vous, à l'extérieur. Ainsi, chers voisins, si vous êtes à l'écoute ce matin, je pense que nous avons en vous les meilleurs voisins qui existent à Jeffersonville. Nous parquons nos voitures devant leur maison et toutes ces autres choses et ils ne disent jamais rien à ce sujet. Ils nous laissent continuer. Ainsi, nous les remercions sincèrement. Oh, combien il est merveilleux que Dieu soit avec vous maintenant. Jusqu'à ce que nous nous réconcilions, inclinons nos têtes, le pasteur prendra congé de nous dans quelques instants. Que Dieu soit avec nous. Nous nous réconcilions au pied de Jésus, de la grande cité auprès du trône, jusqu'à ce que nous nous réconcilions, jusqu'à ce que nous nous réconcilions, que Dieu soit avec vous. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau.